Bien, donc nous allons pouvoir reprendre nos travaux. Alors ce matin, donc, nous avions fait un panorama à travers différents pays plus différents problèmes, et on avait vu que la question donc, du féminicide se heurtait à la fois avec ce qu'en faisait un certain nombre d'États, et puis également dans le cas français avec le législateur et aussi donc, la tradition. Donc ce matin, c'était plutôt quand même autour des discours et des débats, et la séance de cet après-midi va s'attacher plus particulièrement, mais pas forcément de manière exclusive, à la question donc, des pratiques et des représentations. Alors tout d'abord, pour cette première partie, deux intervenants. Tout d'abord, Sofiane Bouhiba, donc je suis très heureux de recevoir ici, qui est déjà venue donc, à Poitiers, qui connaît un petit peu donc, la ville, voilà, et qui va donc évoquer pour nous un aspect lié au féminicide qui est presque pas abordé, puisque d'habitude on discute plutôt autour de l'Amérique latine, éventuellement de l'Asie, et puis en général dans le débat public on délaisse souvent quand même donc l'Afrique du Nord, et donc il va évoquer la question donc des sources du féminicide en islam. Après quoi, donc, on aura le plaisir d'écouter Fabrice Vigier. Donc, vous êtes un certain nombre, enfin, je parle là évidemment plutôt aux étudiants d'histoire qui le connaissent depuis la première année. Et donc, il va évoquer pour nous une autre orientation, tuez-les, les crimes contre les femmes au siècle des Lumières. Donc, évidemment, siècle des Lumières, c'est la période chronologique. Ça n'a rien à voir avec le programme des philosophes des Lumières. Ça, vous l'avez compris. Bien, donc, sans autre transition, ben, tout de suite, c'est à toi si tu veux prendre la parole.
Bonsoir, merci Frédéric pour ton invitation. Alors moi je vais vous parler du Wa'd. Je ne sais pas si il y a des arabophones dans la salle. Le Wa'd, c'est une pratique abominable qui a longtemps prévalu dans les sociétés arabes pré-islamiques. Le Wa'd, c'est l'infanticide féminin, le féminicide infantile, je ne sais pas trop. C'est le substantif du verbe Wa'ada qui signifie enterré vivant. Et alors jusqu'à l'avènement de l'islam, ce qui se passait, c'est que les pères des Arabes qui avaient des filles étaient honteux et déçus de ne pas avoir eu un garçon, hein, un héritier mâle, au point qu'ils se dépêchaient d'enterrer vivante leur petite fille. Donc c'est ce qu'on appelle le Wa'd. Alors, dans les sociétés arabes pré-islamiques, le fait d'avoir une descendance féminine était considéré comme un grand malheur. Donc, d'où cette idée d'éliminer physiquement le bébé. Le terme arabe abtar désignait avec mépris, hein, donc il y avait cette connotation de mépris, du père qui n'avait pas d'héritier mâle, quelqu'un qui a seulement des petites filles. Alors, je ne voudrais pas me faire le défenseur du diable, mais je vais vous présenter quelques arguments qui pourraient expliquer pourquoi cette pratique existait dans les sociétés pré-islamiques. Un premier argument économique, on pourrait parler d'un certain malthusianisme de la pauvreté. Enterrer un nouveau-né, c'est finalement se débarrasser d'une bouche supplémentaire à nourrir. Et ce qu'on constate lorsqu'on regarde les archives, les sources, le Wa'd se pratiquait plus souvent en période de disette, en période de famine. Donc c'était une manière pour les sociétés, ces sociétés pré-islamiques, de gérer leur contraception, si je puis m'exprimer ainsi. L'infanticide concernait les garçons et les filles dans les périodes difficiles, mais on avait tendance à éliminer la petite fille plus souvent que le garçon. Un autre argument économique qui est lié à l'héritage, comme dans la plupart des sociétés, la descendance mâle permet de conserver le patrimoine dans la famille, tandis que une fille qui va se marier va entraîner ipso facto un morcellement des acquis familiaux et tribaux. Et en particulier, cela va entraîner un morcellement des troupeaux, des terrains agricoles, et finalement, ça va remettre en question la gestion des affaires familiales. Un argument commercial, il faut savoir que l'économie arabe pré-islamique était largement basée sur le commerce, puisque on est en Arabie. On est sur la voie commerciale qui relie le bassin méditerranéen à l'Inde. Et donc, les tribus arabes devaient disposer d'hommes pour assurer la conduite et la protection des caravanes terrestres contre les pillards et également pour la protection des navires contre les pirates. Donc, on avait besoin de garçons, de mâles pour occuper ces postes. La négociation entre les caravaniers, les bailleurs de fonds, les commerçants, les chefs de tribus, les propriétaires de puits sahariens, les chefs de bande, etc. Donc toutes ces activités typiques des sociétés arabes pré-islamiques étaient des activités masculines, d'où cette préférence pour le garçon. Un argument démographique, puisque je suis démographe, comme dans toute société guerrière, il y avait une forte surmortalité masculine. Je cite la bataille de Uhud, au cours de laquelle beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes sont morts. J'ouvre une parenthèse, il y a eu tellement de compagnons du prophète qui étaient morts au cours de cette bataille que l'idée était venue de retranscrire le Coran par écrit, puisque jusqu'alors il était transmis par voie strictement orale. Alors un autre argument sécuritaire, la femme représentait une menace permanente pour le clan, pour la tribu, puisqu'elle risquait à tout moment d'être enlevée, ce qu'on appelle le sabi, ou séduite par des membres d'un clan ennemi, surtout si elle est, ma foi, d'un physique agréable. La perte de la virginité de la jeune femme également, on en a parlé ce matin, en parlant des crimes d'honneur, plonge toute la tribu dans le déshonneur. Donc, c'était parfois très mal vu d'avoir trop de filles, trop de femmes dans le clan. Et comme ça a été le cas pour la guerre de Troie, les belles femmes étaient souvent la cause de guerres entre tribus, entre clans, et l'honneur de la famille était à chaque fois lavé dans le sang. Un argument militaire également, puisque la femme, être faible, hein, si je puis m'exprimer ainsi, n'était pas capable de porter les armes et elle était considérée moins utile qu'un homme. Donc pour toutes ces raisons, les nouveau-nés masculins étaient considérés comme de futurs guerriers. Donc, comme première conclusion, disons que le Wahd, au-delà de cette horreur qui nous inspire aujourd'hui encore, n'était finalement ni plus ni moins que le reflet finalement des représentations que se faisait la société pré-islamique de ces éléments féminins. Alors, avec l'avènement de l'islam, l'équilibre des genres va être bouleversé. Le prophète Mahomet va prohiber le Wahd, l'assimilant à un homicide. On en a parlé également ce matin. Et l'islam, comme les autres religions du livre, va interdire l'infanticide, l'avortement à partir du 40e jour de grossesse. Alors, comme pour les autres grands thèmes débattus par les autorités musulmanes naissantes, le plaidoyer va être fondé sur deux sources essentielles, d'abord le Coran et ensuite les hadiths. Alors, le Coran est une source écrite sans appel, mais les hadiths posent le problème de l'authenticité. Beaucoup de hadiths sur lesquels on travaille quand même sont apocryphes. Alors, que nous dit le Coran ? En réalité, il est fait mention du Wahd une seule fois dans le Coran. Alors, on dit si la Ma'oudatou, Ma'oudatou, c'est la fille qui a été enterrée vivante, est interrogée, pourquoi a-t-elle été tuée ? Donc, cet unique verset citant le Wahd ne contient ni interdiction ni reproche. Il s'agit tout au plus d'un constat. Donc, en lisant ce verset, on comprend que le Wahd était une pratique de l'époque pré-islamique. Ensuite, le Coran va évoquer la pratique, mais sans la nommer, dans deux autres versets. Alors, je cite, « Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, il suffoque. » Donc, c'est vraiment la catastrophe d'avoir une fille. « Il se tient à l'écart, loin des gens, à cause du malheur qui lui a été lancé. » Donc, avoir une fille, c'est un malheur. « Va-t-il conserver cet enfant, malgré sa honte, ou l'enfouira-t-il dans la poussière ?» Donc, il y avait cette idée de faire disparaître la fille dans la poussière. Donc, on l'enterrait, c'était la manière de l'éliminer. Leur jugement n'est-il pas détestable ? Surat An-Nahl. Alors, dans d'autres passages, le Coran prend ouvertement parti contre le prétexte inventé par les pères lors du Wahd, c'est-à-dire cette préférence affichée pour les nouveau-nés mâles. Donc, je cite un autre verset. Quoi ? N'aurait-il pris que des filles parmi ceux qu'il a créés en vous accordant à vous les garçons ? Lorsqu'est annoncée à l'un d'entre eux la naissance de ce qu'il attribue au tout clément, alors sa figure s'assombrit. Donc on a toujours cette idée de figure qui devient sombre, de tristesse, de déception. Il est suffoqué de dépit, quoi engendré pareille créature qui grandira de fanfreluche vêtue et ne pourra même pas soutenir une discussion, donc une image dévalorisée de la fille. Un autre verset, et quoi l'enfant mâle serait-il pour vous et pour lui la femelle? Ce serait là un injuste partage. Ensuite, on a des versets peut-être plus rassurants. Donc je cite, ne tuez pas vos enfants par crainte de la misère, car il sera pourvu par nous à votre subsistance comme à la leur. Donc même si vous avez des enfants, des filles, c'est pas grave. Donc là, on parle d'enfants d'une manière générale, mais on fait référence au Wet. Alors l'autre source, l'autre grande source sur laquelle je me suis appuyé, ce sont les hadiths, c'est-à-dire des témoignages des compagnons du prophète sur la manière dont le prophète Mahomet vivait. Alors Mahomet lui-même a montré l'exemple, puisque sa première femme Khadija ne va lui donner que des filles. Tous les garçons qu'il a eus sont décédés en bas âge, puisque à l'époque la mortalité infantile était effroyable. Et alors le prophète va donner l'exemple, puisque bien qu'il ait eu une descendance exclusivement féminine, il n'a jamais songé à éliminer l'une de ses filles, il a donné l'exemple. Alors on a beaucoup de hadiths qui prennent position contre l'infanticide et plus particulièrement contre l'ouet, donc l'infanticide des petites filles. Al-Razel y rapporte, celui qui a une fille et qui l'éduque de la meilleure façon, la nourrit de la meilleure façon et lui prodigue ce que Dieu lui a donné comme bien, sera pour lui une protection contre le feu des enfers et une aide pour l'accès au paradis. Donc c'est bien de nourrir sa fille, hein, c'est pas une mauvaise chose. Ibn Abbas alors rapporte que Mahomet aurait dit, tout homme qui a deux filles et qui les traite avec bienveillance et générosité, tant qu'elles vivent avec lui, accède à coup sûr et grâce à elles et au paradis. Donc soyez bons envers vos filles, pas seulement envers vos garçons, vous irez au paradis. Je cite encore Al-Razeli. Il nous dit, un croyant ne doit pas trop se réjouir de la naissance d'un garçon, ni trop s'attrister de celle d'une fille, car il ne sait point d'où peut provenir le bien. Donc avoir une fille, après tout, c'est pas mal. Et combien de pères ou de garçons de filles ont souhaité, après coup, ne pas les avoir eues, etc. Donc on a, dans ce contexte de survalorisation de l'élément masculin, on voit qu'il y a un véritable plaidoyer contre le Wahd, contre le féminicide infantile. Bon, je cite d'autres hadiths. Celui qui se rend, donc Al-Razeli, celui qui se rend à une foire organisée par des musulmans et qui y acquiert quelque chose qu'il ramène chez lui et qu'il destine aux filles et aux femmes à l'exclusion des mâles, Dieu pose sur lui son regard. Donc ramener des cadeaux aux petites filles, c'est bien, ça. Dieu va vous fera accéder au paradis. Celui qui va au marché et ramène des achats pour les siens agit comme s'il faisait à travers eux une offrande aux dieux. Et puis, on a des distinctions. Aussi, doit-il commencer par les filles avant les garçons? Donc, véritablement, là, on a beaucoup de hadiths, beaucoup de des sources qui montrent que finalement, il y avait un plaidoyer à l'époque, lors de l'avènement de l'islam, pour encourager les croyants à être équitables. Donc on commence déjà par parler d'équilibre de genre, hein, au 7e siècle. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, un compagnon du prophète, écrit, parmi les droits des enfants sur son père, il y a celui d'être traité sur le même pied d'égalité par rapport à ses autres frères et sœurs. Donc malgré tout ce plaidoyer, la préférence va rester pour les enfants mâles et on a l'impression que pas grand chose va changer et que même la nouvelle société musulmane naissante va marquer sa préférence envers les nouveau-nés de sexe féminin. Alors Wiebke Walter nous dit, exprime bien cela lorsqu'il écrit, si les femmes qui l'aidaient à mettre son enfant au monde ne poussaient pas de cris d'allégresse chantant les louanges d'Allah dès que le bébé était là, mais se bornait à de discrets chuchotements, ce comportement à lui seul permettait de conclure qu'elle avait donné naissance à des filles et non à des garçons avant qu'on lui dise ou qu'on lui montre le nouveau-né. Donc lorsque une femme, même après tous ces plaidoyers qui ont été, qui sont venus avec l'islam, même après tout cela, lorsque une femme va donner naissance à un garçon, ce sont des youyous, des cris de joie. Lorsque c'est une petite fille, bon, on ne va plus se lamenter, mais on va plus être dans la discrétion. Donc on a beaucoup de descriptions de la part d'anthropologues qui vont dans ce sens. J'ai également trouvé trace dans la sonna de certains textes qui recommandent d'égorger deux dromadaires à la naissance d'un garçon, un seul étant suffisant lorsqu'il s'agit d'une fille. Donc même s'il n'y a plus le wa'd, il y a encore des réminiscences, donc cette préférence du petit garçon. Les nouvelles règles successorales édictées par le Coran ne vont pas ranger les choses, puisque vous savez que il y a en islam, le garçon hérite le double de la petite fille, donc il y a quand même des discriminations. Tout à l'heure, je parlais du terme abtar. Aujourd'hui, il y a un terme un peu méprisant de Om al-Banet, c'est-à-dire la mère des filles. Donc, lorsqu'une femme n'a que des filles, donc ça arrive, hein, on voit souvent des familles avec trois filles, quatre filles. Donc, il y a un terme qui est un peu méprisant, Om al-Banet, Abu al-Banet, s'il s'agit d'un homme. Alors, on va retrouver cette psychose de l'enfant mâle dans la littérature, dans les mille et une nuits, par exemple. Alors, je cite Abdelwahab Boudiba qui écrit « Et après tout, la princesse Shahrazad des mille et une nuits, doit-elle son succès à autre chose que d'avoir su, sans perdre son temps, donner à son maître en 33 mois, trois enfants, tous de sexe masculin ?» Donc, Shahrazad n'a eu que des garçons, n'a pas eu de petites filles. « Angoisse des matrices vides, terreur des fausses couches, obsession des naissances féminines, donc c'est un terme qu'on retrouve souvent dans la littérature, malchance et mortalité infantile, telle est la quadruple hantise de la mère arabe. Alors, il me reste combien de temps, Frédéric ? C'est bon ? D'accord. Alors, j'arrive à ma conclusion. Donc j'arrive à ma conclusion, je suis dans les temps. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Finalement, c'est que d'abord le wa'd répondait finalement à un besoin social, un besoin de la société pré-islamique. J'avais présenté des arguments démographiques, économiques, militaires, etc. Donc à défaut d'accepter la chose, on peut comprendre pourquoi est-ce que il y a eu le wa'd dans la société pré-islamique. Autre chose, on observe, je l'avais expliqué également dans la deuxième partie de ma communication, on observe aujourd'hui quelques résurgences de la mentalité pré-islamique sanguinaire à l'égard des filles. Aujourd'hui encore, on a des populations des Touaregs dans le Sahara qui tolèrent encore ces pratiques de wa'd. Donc je pense que ce sont les seuls peuples où l'infanticide féminin est encore pratiqué. On va retrouver cette forme d'infanticide féminin en Chine, en Inde, dans les populations musulmanes, puisque aujourd'hui, avec une échographie, on peut connaître le sexe de l'enfant et on va éliminer les petites filles in utero. Donc s'agit-il d'un féminicide? C'est la question qu'on peut se poser. Sur le plan juridique, on peut considérer ça comme une forme d'infanticide féminin. Donc on ne va plus enterrer la petite fille, mais on va l'éliminer alors qu'elle est encore dans le ventre de sa mère. Autre réminiscence, autre résurgence de ce phénomène, en Tunisie, par exemple, on a souvent des familles où il y a trois filles et puis un garçon. Donc ce sont des familles qui ont essayé trois fois d'avoir un garçon et à chaque fois, elles espèrent en avoir un autre. Donc c'est classique, hein, on a souvent beaucoup de familles avec trois filles et un garçon. Donc pour conclure, on n'enterre plus la petite fille au fond du jardin comme on le faisait autrefois, mais je pense que le wa'd reste encore bien présent dans la famille arabe moderne d'aujourd'hui. Je vous remercie.
Bien, donc merci. Alors d'abord pour avoir admirablement donc tenu le temps. Alors évidemment, vous mettez la pression sur les autres auteurs de communication qui vont suivre. Merci bien sûr, Cyr, pour cette communication. Alors j'imagine bien sûr qu'il y aura toute une série de questions et de débats, mais ce que je vous propose, ce serait mieux pour le fonctionnement, c'est qu'on repousse à la suite de la deuxième intervention donc les questions, les questionnements, et on pourra aussi effectuer un certain nombre de passerelles, voire de parallèles. Donc Fabrice Vigier, maintenant, donc pour 25 minutes.
Non, comme ça. Ma communication est un petit peu différente dans son contenu de ce qu'on a pu entendre ce matin. Moi, je vais très très peu m'attarder au texte de droit, au texte normatif. Moi, je vais vous présenter, c'est un petit peu ce que je sais faire, des cas concrets d'homicide de femmes. Vous allez voir, il y a des morts dans ce que je vais vous présenter. Et en l'occurrence, il y a des morts d'il y a deux siècles et demi, plutôt des mortes, oui, tu as raison. Il y a aussi quelques morts en même temps. Hein. J'ai un tout petit peu modifié le titre de la communication, hein, qui je considérais était plus juste dans le contenu. Donc je l'ai appelé à propos de quelques affaires d'homicide de femmes dans le Poitou du XVIIIe siècle. Alors, pour commencer, tout d'abord, parce qu'il faut quand même dire quelques mots à ce sujet. Alors, au XVIIIe siècle, le terme d'homicide existe déjà, contrairement au terme de fémicide, et il désigne tout simplement, j'ai pris ça dans un dictionnaire, hein, un crime qui consiste à tenter à la vie d'un homme ou d'une femme. Et ce terme, d'ailleurs, est quasiment synonyme de deux autres termes que vous connaissez tous, en l'occurrence le terme de meurtre et le terme d'assassinat. En fait, ces trois mots désignent globalement un petit peu la même chose, il y a quand même des nuances. De ces trois termes au XVIIIe siècle, le terme le plus général, le plus générique, c'est le terme d'homicide. Le terme de meurtre, en revanche, signifie exactement la même chose. Bon, simplement, il insiste un peu davantage sur le caractère violent de ce type d'acte. Et quant au terme assassinat, lui, il veut dire aussi la même chose, mais il sous-entend qu'il y a eu préméditation dans l'homicide. Alors, quelles que soient ces petites différences, j'ai voulu essayer d'étudier les homicides de femmes dans le cadre géographique de la province du Poitou au XVIIIe siècle. Et comme tout historien, je me suis posé la question, pas très longtemps, hein, je vous rassure, de savoir où je pouvais trouver des renseignements sur ce type de crime. Alors, je me suis naturellement tourné vers trois types de documents. Tout d'abord, premier type de document, parce qu'ils étaient pratiques, c'est tellement facile à dépouiller. Tout d'abord, vers le périodique poitevin de l'époque. Il n'y en a pas mille, il n'y en a qu'un. Hein. Il n'y a qu'une publication avant la Révolution qui s'appelle les Affiches du Poitou, qui paraissent à partir de 1773. J'ai trouvé dans ces Affiches du Poitou, uniquement, parce qu'ils évoquent évidemment les faits divers, deux homicides de femmes. Un en l'occurrence en 1700, faut pas que j'aille si vite, un en 1773, c'est le meurtre d'une pauvre vieille femme cabaretière des environs de Mirebeau qui est tuée dans son lit à 78 ans. Et puis un deuxième exemple, en 1775, dans la région de Loudun, je ne connais pas l'âge de la femme en question, mais elle aussi, elle est assassinée. Et ça fait un petit peu, vous voyez, l'objet d'une petite chronique dans ce périodique local. Bon, c'était assez peu, hein, deux affaires. J'ai ensuite consulté, deuxième type de source, toutes les archives du fort privé, les mémoires, les journaux, etc., pour voir si les contemporains du XVIIIe siècle évoquaient ce type de crime dans leurs journaux un petit peu intimes. Là, pas de chance aussi, j'ai trouvé très très peu de choses. Simplement, quelques lignes dans le journal d'un sacristain de Poitiers, qui s'appelait Cartier, qui évoque le meurtre sévère assez horrible de Gabrielle Desplébin, qui était la domestique du curé de Saint-Cybard, à côté de chez toi d'ailleurs, Frédéric, hein, ça s'est passé, place du Pilori, hein, qui est effectivement tué à coups de hache au domicile du prêtre en question. Bien évidemment, le troisième type de document que j'ai consulté, certains dans la salle commencent à bien les connaître, ce sont les archives, les dossiers judiciaires. Et là, j'ai quand même eu un peu plus de chance, j'ai trouvé un petit peu plus de données. J'ai réussi à trouver un certain nombre de dossiers assez complets qui concernaient des meurtres de femmes, et des assassinats de femmes. Alors, pas aussi important que je l'aurais souhaité, mais ça m'a permis quand même de savoir davantage de choses, de davantage appréhender ce type de crime fait aux femmes. Et à partir de ce corpus, qui est pas extraordinaire, mais j'ai fait ce que j'ai pu, hein, en l'occurrence. Je me suis efforcé à partir de ce corpus de répondre à trois questions simples. D'abord, est-ce qu'au XVIIIe siècle, on rencontre beaucoup d'homicides de femmes dans cette province ? Deuxièmement, que nous apprennent ces affaires sur ce type de crime ? Et enfin, de quelle façon la justice traite-t-elle ce type d'affaires ? Bon, d'abord, je vais vite. Mon voisin, sinon, je sens, il va me faire des remarques. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de procès de ce type dans les archives judiciaires du XVIIIe siècle ? D'abord, une petite précision d'ordre quand même juridique. L'homicide, vous voyez, souvent, depuis ce matin, on a dit, voilà, est-ce que c'est plus grave, moins grave pour les hommes, pour les femmes ? Honnêtement, dans les textes de droit du XVIIIe siècle, il n'y a aucune différence entre les homicides d'hommes et de femmes. Hein. On parle, ça fait partie des cas, des crimes les plus graves, ça fait partie de ce qu'on appelle les cas royaux, bon, ça peu importe. Et si on reprend les textes de justice judiciaire du XVIIIe siècle, donc le joug, c'est très pratique, ça résume très bien, c'est considéré comme l'un des crimes les plus graves, et bien évidemment, vous le voyez ici mentionné, hein, inutile que je reprenne, cet homicide est toujours puni de la peine de mort, hein, bien évidemment, et il doit toujours être jugé, ce type de crime, par les justices de haute justice, enfin par les tribunaux de haute justice. En Poitou, on n'en manque pas, hein, y en a... voilà le Poitou, vous voyez la carte du XVIIIe siècle du Poitou. Le principal tribunal, c'est celui de Poitiers, qui s'appelait le présidial. On trouve également 9 bailliages et sénéchaussées. On trouve 5 prévôtés royales en Poitou qui peuvent également juger ce type de crime. Et une centaine de justices seigneuriales. Alors, je vais vous l'avouer, je n'ai pas dépouillé tous les dossiers judiciaires du XVIIIe siècle sur toutes ces justices d'Ancien Régime. C'est impossible. Simplement, j'ai regardé attentivement d'abord tous les travaux qui avaient été faits à ce sujet. J'ai moi-même pas mal dépouillé. Et à partir de cela, j'ai trouvé deux résultats, et notamment deux résultats statistiques qui concernent notre sujet. D'abord, le premier résultat, je me suis rendu compte que les affaires d'homicide de femmes au XVIIIe siècle étaient très peu nombreuses dans les dossiers judiciaires. Vous voyez, prenez cette statistique-là, qui est derrière moi, j'espère que vous voyez tous, sur 2000, quasiment 2500 dossiers judiciaires pénaux, eh bien, 6 homicides de femmes. Bon, est-il de vous dire, il faut chercher quand même, hein, pour en trouver. C'est-à-dire 0,24%. Ailleurs, c'est pareil. Hein. J'ai fait des comparaisons. Il y a eu des études dans la région lonnaise et à Paris. On trouve à peu près la même proportion. Et puis, deuxième résultat statistique, je vais vite. J'ai également essayé de voir quelle était la proportion de ces crimes de femmes parmi les homicides. Eh bien, vous voyez là, j'ai fait dépouillement exhaustif. Oui, j'ai même cité mes sources. Là, c'est deux étudiantes de master qui ont fait cette enquête. De 1770 à 1790, vous voyez, les 20 dernières années de l'Ancien Régime, il y a eu 71 homicides qui ont été jugés par le principal tribunal provincial. Eh bien, sur ces 71 homicides, il n'y en avait que 10 qui concernaient des femmes. Donc, vous comprenez bien, constituer un corpus significatif, ce n'est pas si simple que ça. Bon, malgré tout, j'ai constitué un corpus de 15 affaires. Ça représente quand même 2000 pages de procédure, hein, du XVIIIe siècle qui s'étendent entre 1730 et 1790, qui concernent 21 victimes, parce que parfois on n'en tue pas qu'une femme, mais plusieurs, hein, vous l'aurez compris. Parmi ces 15 affaires, d'ailleurs, il y a parfois aussi des victimes masculines, ce qui n'est pas inintéressant, vous voyez. Et par ailleurs, géographiquement, toutes ces affaires se déroulent principalement dans la région autour de Poitiers. Je me suis amusé à faire une carte, d'ailleurs. Voilà mes 15 affaires. Je vais y arriver. Hein, voilà mes 15 affaires. Vous voyez, il y a quand même une forte concentration dans la région Poitevine. Bon, ces 15 affaires, c'est bien gentil. On les a trouvées. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre sur ce type exact de crime ? D'où ma deuxième question. Alors, c'est vrai que ces sources, d'abord, c'est vrai que c'est long à dépouiller, hein, c'est 2000 pages à peu près de procédure. D'abord, elles nous donnent un premier type de renseignement. Elles nous donnent d'abord des renseignements sur les victimes, ce qui n'est quand même pas anodin. Hein. Ce matin, tu parlais, faut faire une analyse de type social. Je crois que c'est absolument indispensable. D'abord, mes victimes, vous voyez, moi, je suis très concret. D'abord, qu'est-ce qu'elles ont comme profil ? Ça va de 7 ans à 80 ans, hein, mes victimes, là où j'ai retrouvé l'âge. Leur origine sociale, ben, c'est quand même là dans des milieux plutôt modestes. Je constate néanmoins, malgré la faiblesse de mon effectif, que je trouve 4 domestiques. Je trouve également 3 cabaretières ou aubergistes. C'est-à-dire que c'est quand même un métier assez dangereux. Hein. Hein, à la fois domestique, parce qu'on est sous l'emprise de ses maîtres et puis de l'étranger. Également les cabaretières, parce que ce sont des lieux ouverts à tous les publics. J'ai trouvé également parmi mes victimes une geôlière, là aussi on est confronté à des gens dangereux, et puis une femme de colporteur. Toutes ces victimes La plupart d'entre elles, du moins, 19 sur 21, habitent dans des villages, dans des petits hameaux, hein, plutôt dans des lieux isolés. J'en ai que deux qui étaient de Poitiers, en l'occurrence. Autre information également que nous donnent ces dossiers, vous voyez, je vais vite, elle nous donne également des renseignements sur le contexte de ces homicides de femmes. Vous voyez, là aussi, j'ai essayé de présenter mes principaux résultats, vous voyez, pour mes 15 affaires, en l'occurrence. D'abord, à quel moment privilégier ces homicides ont-ils lieu? Vous savez, sous l'Ancien Régime, pour l'Ancien Régime, il y a eu plein d'études. Généralement, on dit, voilà, les actes de violence, en gros, c'est quand il fait chaud, au printemps et à l'été. Hein, ça, c'est ce qu'a mis en évidence Muchamblé. Eh ben, regardez, quand je regarde, moi, avec mes crimes de femmes, ben, ça ne marche pas. Hein. Il y en a 3 au printemps, 4 au printemps, oui, 4 au printemps, 3 à l'été, 3 à l'automne et 5 en hiver. Donc raté, Muchamblé, tu t'es trompé. Hein. Du moins à partir de mon corpus. Quand on regarde également le moment de la journée où ces crimes ont lieu, bon, il y en a 2 le matin, il y en a 5, 4 l'après-midi et 5 le soir ou la nuit. Là, ça colle un petit peu plus au schéma classique de la chronologie des violences. Quant au lieu de l'agression, alors là, c'est assez spectaculaire. Sur les 15 homicides que j'ai répertoriés, il y en a quand même 12 qui ont lieu au domicile de la victime ou chez son maître. Et les 3 autres, c'est à l'extérieur. Mais c'est vraiment c'est très peu. Et puis enfin, quant aux armes utilisées, d'abord, je n'ai pas trouvé de fusil, je suis désolé, il n'y a pas d'arme à feu. Hein. En revanche, dans 4 cas, ce sont des haches ou des objets contondants. Moi, je pense que ce sont à chaque fois des haches. Donc ce sont des femmes qui ont été tuées à la hache dans 4 cas. Dans 2 cas, on a utilisé des bâtons, ce qu'on avait vraiment sous la main. Et puis après, j'ai dû avoir un marteau, un couteau, des pierres, sur lesquelles je reviendrai. Et puis une fois, le poison utilisé. Enfin, toujours pour exploiter, vous voyez, ce type de dossier, également, toutes ces affaires me donnent des informations sur le scénario de ces homicides. Alors très schématiquement, hein. On peut les classer en 3 catégories. D'abord, il y aurait les homicides de crapuleux de femmes. On tue la femme pour des raisons financières, pour faire un vol. C'est le cas, là, en l'occurrence, de 5 de mes 15 affaires. Les homicides, dans ce cas de figure, a toujours lieu au domicile de la victime. Je prends 2 exemples, parce que je ne vais pas multiplier les choses. 2 exemples. On est dans la région de Bressuire, en 1781. On est en pleine période de moisson. Les hommes sont au champ. Qui garde la ferme, c'est une domestique. Eh bien, pendant l'absence des hommes de l'exploitation, quelqu'un va s'introduire dans la maison, vous voyez, du maître qui s'appelle David. Il y a effectivement une domestique qui s'appelle Merle et elle va être tuée à coups de hache. Tout ça pour commettre un vol assez conséquent de 450 livres tournois. Deuxième exemple qui se passe presque dans la même région, toujours le nord actuel des Deux-Sèvres, dans la région de Thouars, dans la petite paroisse de Luzé, plus exactement dans le petit lieu-dit de la Corbinière. Eh bien, il y a une auberge à cet endroit-là. Eh bien, le soir du 15 septembre 1781, il y a 3 clients qui arrivent, 3 clients qui ont quelque chose derrière la tête, évidemment, on leur ouvre, ils veulent boire. Eh bien, le cabaretier qui s'appelle Pierre Beaugrand leur donne à boire. Et puis, au bout d'un moment, l'un d'eux demande à ce que l'on donne à manger finalement à leurs chevaux. La femme de l'aubergiste se déplace vers les écuries. Un des clients la suit et il va la frapper à coups de marteau. Hein, 2 coups de marteau sur le crâne, elle meurt. Ensuite, ils vont tuer l'aubergiste en question. Et évidemment, le but, c'est de voler l'aubergiste en question puisque l'armoire sera ensuite défoncée. Désolé pour ces affaires absolument horribles. Hein, deuxième type de crime. Alors moi, vous voyez, ce matin, vous avez parlé des crimes passionnels, tout ça. Moi, je ne connais pas ça. Enfin, je ne connais pas. Dans les sources, ce n'est pas si net. Là, ce que j'appelle les homicides familiaux, c'est-à-dire une femme qui a été tuée par un membre de sa famille, concrètement. Là aussi, j'ai 5 cas sur mon petit échantillon. Là aussi, c'est toujours au domicile de la victime. 2 exemples, là aussi, un exemple plus horrible, peut-être, à Val, dans la région de Parthenay. C'est même dans la bourgade de Val, au petit matin du mois de février 1762, on trouve à la fois une mère avec ses 3 filles qui ont été tuées à coups de hache au petit matin. L'accusé, et il va être d'ailleurs condamné, c'est le père. Les raisons, crime passionnel, etc., j'en sais rien, hein, c'est difficile. En tout cas, c'est un crime absolument monstrueux. Et puis, deuxième exemple, qui se passe cette fois-ci, c'est vraiment à côté de chez toi, Frédéric, place du Pilori. Hein. Au départ, à première vue, ce n'est pas un crime familial, et pourtant si. Le soir du 1er avril 1978, on pénètre dans la cure de Saint-Cybar, qui touche vraiment la place du Pilori. Vous allez me dire pourquoi faire ? Pour tuer le curé ? Bon, c'est vrai qu'il va être tué le curé aussi, hein, qui a 78 ans. Mais c'est surtout pour s'en prendre à la bonne du curé, pour aller vite, à sa gouvernante. Et effectivement, c'est son mari qui s'est introduit dans ses locaux. Et là aussi, il va tuer sa femme. Et puis, comme le curé cherchait à la défendre, eh bien, lui aussi, il va être découpé à coups de hache. Vous comprenez bien que ça va faire un petit peu la une de Poitiers pendant quelques jours, cette affaire-là. Hein, et puis, enfin, je vais vite, le troisième type d'homicide de femme que j'ai pu rencontrer dans mon petit corpus. Alors, en fait, ce sont les homicides qui sont moins prémédités que les précédents, parfois involontaires, accidentels. Là aussi, il y en a cinq. C'est un petit peu les inclassables. Les yeux d'agression sont plus différentes. Alors là, j'ai un cas horrible. Ils sont tous horribles, de toute façon. Là, c'est le cas de Marie Thibault, qui est la femme du colporteur et qui est sur la route entre Niort et Chauray. Elle voyage pourtant deux jours, hein, avec une autre femme qui s'appelle Marianne Foresto. Là, vous avez un extrait de son témoignage. Elles ont la malchance, pourtant en pleine journée, de croiser trois militaires, trois soldats. Ces trois soldats vont les entreprendre, et notamment l'un d'entre eux va vouloir abuser de l'une d'entre elles. Comme elle n'est pas consentante, eh bien, je crois que c'est marqué sur ce petit extrait, qu'a fait le soldat en question, qui en plus était très aviné, faut dire les choses, il était ivre, eh bien, l'un des soldats qui était armé d'un sabre voulut jouir de la défunte, qu'elle ne voulut consentir, qu'en conséquent, il tira son sabre et l'en assassina. Et puis, deuxième exemple, là, c'est Marie-Josée qui pourrait être intéressée ou qui pourrait m'aider pour le traiter. C'est le cas de Jeanne Lucchio, excusez-moi, ça se passe dans un village à proximité de Civray. La pauvre Jeanne Lucchio, elle sort devant chez elle, vous voyez, elle fait rien de mal, et puis elle se retrouve nez à nez avec une certaine, une dénommée Caille, son nom de famille, je crois, précis, oui, c'est Madeleine Guillot. Et que fait cette Madeleine Guillot qui a une vingtaine d'années ? Elle se précipite sur elle, quasiment sans lui parler, et puis elle va la tuer à coups de pierre. Alors vous allez me dire pourquoi, parce que là c'est incompréhensible. Eh bien, on va l'interviewer, on va faire son interrogatoire, et elle va dire je l'ai tué parce que c'était un loup-garou et qu'elle voulait me manger. Bon, dit autrement, elle est folle. Moi, je ne suis pas spécialiste en psychologie, hein, mais elle est complètement folle, elle avoue tout, hein. Tout dans l'interrogatoire. C'était un loup-garou, fallait la tuer. Et si j'en trouve une autre, je la tue aussi. Voilà. Troisième, loup-garou. Je dis bien loup-garou. Je reprends moi les termes de mon texte. Enfin, troisième type de question que je me suis posée à partir de mon corpus, c'est comment, vous voyez, ces justices poitevines traitent-elles de ce type d'affaires au XVIIIe siècle ? Alors, là aussi, quand on regarde les pièces de procédure, je ne vais pas vous faire un cours sur la procédure ancien régime, ça n'a aucun intérêt ici, puis je n'ai pas le temps. D'abord, les pièces de procédure me donnent d'abord des renseignements sur les accusés. Bon, attendez, dans mes accusés, là, d'abord, je ne sais pas tous. Hein. Il y a quatre affaires pour lesquelles je ne connais pas. Je pense que mes accusés sont très certainement coupables dans au moins 10 cas sur 15, mais je ne suis pas juge. Hein. Surtout pour des affaires qui ont lieu il y a deux siècles et demi. D'abord, ces affaires, quand on regarde les accusés, d'abord, important, deux d'entre eux sont des femmes. Hein, il y a deux femmes qui tuent d'autres femmes. Et puis, quand on regarde un petit peu les autres accusés, ben, regardez leur profil. Leur âge varie entre 21 et 70 ans. Parmi ces criminels, on trouve des professions quand même assez exposées à la violence. Hein. On trouve notamment un soldat, ça vous avez compris, c'est mon violeur. Hein. On trouve un sergent de police. On trouve également des prisonniers, un vagabond, puis des gens un peu plus respectables. Un domestique, soi-disant, hein, des maréchaux ferrants, un jardinier, vous voyez, et puis même un curé. Celui-là, je ne suis pas sûr qu'il soit coupable. C'est ce cas-là, si j'avais été juste à cette époque-là, ce n'est pas certain. Et je vous dis ça en totale objectivité. Et puis, deuxième type d'information que nous donnent toutes ces pièces de procédure, elles nous donnent évidemment des informations sur la procédure suivie. Alors, regardez honnêtement, là, je ne vais pas vous faire un cours sur la procédure, mais mes dossiers, certains sont très brefs. Vous voyez, j'ai un dossier, il y a 4 pages. Hein, c'est ce qui a été conservé au XVIIIe siècle. Et puis, j'en ai des beaucoup plus importants. Vous voyez, la bonne du curé là, qui a été tuée, c'est plusieurs centaines de pages. Et puis le plus important, vous voyez, j'ai même un dossier de 1000 pages, 993 pages. Or, quand on regarde, vous voyez, précisément la manière dont les juges ont fonctionné, ce qui est certain, hein, ils n'ont pas du tout minimisé les affaires d'homicide de femmes. Hein. Ça, c'est sûrement pas le cas. Et ils se sont évertués à chaque fois, notamment dans les affaires les plus longues, d'abord à prouver qu'il s'agissait bien d'un homicide, hein, parce qu'on retrouve un mort, il faut prouver que, bon, évidemment, quand c'est, vous voyez, déchiqueté à coups de hache, finalement, le travail des experts n'est pas trop important. Et puis également à trouver le coupable. Je prends un exemple d'affaire pour vous montrer. Vous savez, c'est l'affaire justement de ma vieille cabaretière là, d'à côté de Mirbeau, qui s'appelait Tablelette, qui a 78 ans. Eh bien, quand on regarde le dossier judiciaire, qui fait quand même 993 pages, hein, on trouve dans ce dossier, d'abord, ça se passe comme ça, l'examen d'un chirurgien, même de deux chirurgiens, et qui prouve qu'effectivement, bah, la pauvre dame, visiblement, elle a été assassinée. Hein. Elle a été assassinée puisque son corps est découpé, etc. Ça, c'est un élément de preuve. Évidemment, dans ce dossier, comme quoi ils sont très sérieux, ils vont également faire une enquête, essayer d'avoir des présomptions, des doutes sur un coupable. C'est un accusé, excusez-moi. Cet accusé est interrogé. Vous savez, à chaque fois, l'accusé, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pas moi. Ça date pas d'hier. À part ma folle, là, de tout à l'heure, qui dit « Oui, c'est moi, c'était un loup-garou. C'est pour ça que je l'ai tué. » Mais ça arrive pas souvent, quand même. Également, dans ces affaires, il y a toute une série de témoins qui viennent déposer. Et parmi ces témoins, vous voyez, pour l'affaire de cette vieille cabaretière là, qui se fait assassiner dans son lit pour être volée, eh bien, l'un des témoins a dit « Moi, je sais pas qui l'a tué. » Hein, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que celui qui est accusé, eh bien, je l'ai vu quelques heures plus tard avec un gilet qui était plein de sang. Évidemment, c'est un élément de présomption. Et puis, dans ces affaires-là, j'ai presque fini, Frédéric, on trouve également des sentences pour les dossiers les plus complets. Je vous donne la fin de l'histoire, du coup, pour ma pauvre Mirbalaise, là, de la paroisse de Choupes. Effectivement, la personne là, qui a été accusée, il y a beaucoup de faisceaux qui l'accusent, il va être accusé, non pas à la peine de mort, parce qu'il n'a pas avoué. Puis, on n'est pas sûr à 1000%, même si je pense que c'est lui. Il est accusé, vous voyez, aux galères à perpétuité. Et puis, dernier type d'information, enfin, que peut nous donner ces dossiers judiciaires, c'est sur les sentences. Alors, malheureusement, pour les archives d'Ancien Régime, on a rarement toutes les sentences. J'en ai que 5 sur 15. Ce que je constate, c'est que les peines, presque toujours, sont très dures. D'abord, les deux femmes, vous savez, qui avaient été des meurtrières, elles sont toutes les deux condamnées à être pendues. Toutes les deux. Ensuite, j'ai deux peines de galère à perpétuité. Notamment, c'est pour mon affaire de Val, là. La mère et ses trois filles qui sont découpées en morceaux. Hein, et c'est bon. Et en revanche, la peine la plus sévère, c'est celle qui concerne, vous savez, la gouvernante du curé, là, à côté de la place du Pilori. Là, l'accusé, enfin lui, il avoue, hein, donc c'est sûr que c'est lui, il est condamné à mort. En plus, avec une peine exemplaire, puisque ses membres sont découpés avant d'être brûlés. Alors là, attendez, la peine, pourquoi elle est si importante? Je crois qu'on s'écarte un petit peu de notre préoccupation première. C'est avant tout parce qu'il a tué un curé aussi. C'est un acte sacrilège, et donc on le punit très durement. En conclusion, trois petites choses. D'abord, je suis rapide, vous voyez que ces affaires d'assassinat, de meurtre de femmes au XVIIIe siècle sont très peu nombreuses, et même parmi les affaires d'homicide, vous voyez, elles représentent une affaire sur 6, une affaire sur 7. Pas davantage. Deuxième idée également, lorsque elles sont instruites par les justices d'Ancien Régime, ces affaires d'homicide de femmes sont instruites avec beaucoup de sérieux par les magistrats poitevins. Et dans la mesure où ces crimes sont considérés comme des crimes extrêmement graves, ils n'hésitent pas à punir très durement les coupables. Et puis enfin, la dernière idée, très très rapide, ces affaires d'homicide de femmes suscitent déjà la curiosité populaire quand même. Vous voyez que parmi les quelques affaires que j'ai pu repérer, il y en a au moins deux qui ont été reprises par des périodiques régionaux. Alors c'est pas Paris Match, hein, c'est les affiches du Poitou, mais ça montre quand même qu'il y avait une certaine, je dirais moi, compassion pour ce type de crime qui était effectué à l'encontre de la gente féminine. Merci beaucoup de votre attention.
Bien, donc, merci. Alors, le temps maintenant donc, est au débat. Donc, je prends les questions donc, sur la première, sur la deuxième, ou au contraire, sur les deux communications donc, à la fois. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer.
Moi, je veux bien. Moi, j'ai deux questions. Pour la première, je vous remercie pour vos interventions. Pour la première communication, j'aimerais savoir s'il existe des études ou des enquêtes qui ont été réalisées sur cette pratique. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de chiffrer de cette pratique-là? Pour Fabrice Vigier, peut-être sur l'acception du terme féminicide dans les cas de vol, dans les affaires où les femmes sont tuées parce que pour voler. Est-ce qu'on peut parler vraiment de féminicide dans le sens où elles ne sont pas vraiment tuées parce qu'elles sont femmes? Ça aurait été un domestique à ce moment-là, il aurait été tué aussi, puisque le but, le but c'était de voler. Voilà. Et aussi, ma deuxième question, c'est sur les violences conjugales, parce que là, en fait, ça donne une approche... c'était très, très dur de... La justice, à cette période-là, en tout cas, et les affaires n'allaient pas forcément jusqu'au tribunal, donc on n'a peut-être pas une réalité donc, de ces violences-là. Est-ce qu'il y a une idée un petit peu de... Est-ce que c'est parce qu'elles n'étaient pas traitées? Est-ce que ce n'était pas dénoncé? Est-ce que ce n'était pas traité comme tel? Enfin, voilà, ce sont mes questions.
Une enquête menée, on va dire, avec toute la rigueur scientifique, il y en a une qui a été menée par l'université de Nouakchott sur les populations Touareg, j'en avais parlé, et donc effectivement dans ces populations il semblerait que la pratique, que c'est encore pratiqué, loi est encore pratiquée. D'après l'enquête, il y aurait des Touaregs qui ont avoué avoir enterré leur fille, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui ressort de l'enquête, qui est une enquête officielle. On n'a rien sur le web. Vous parlez d'aujourd'hui, le web moderne. Par contre, on a ce qui ressort souvent dans les enquêtes. On fait souvent des enquêtes sur avec des questions du type est-ce que vous préférez une petite fille, un petit garçon, etc. En Tunisie, il n'y a pas de préférence pour un sexe ou l'autre. Je sais que dans certaines il y a des enquêtes au Yémen, par exemple, en Somalie, où effectivement, quand on pose la question est-ce que vous préférez un petit garçon, une petite fille, il ressort qu'on préfère. Il y a une préférence pour la descendance mâle. Voilà. Merci.
Pour essayer de répondre à tes questions, parce que essayez. Hein. Bon, d'abord, le terme féminicide, tu as compris, ça n'existe évidemment pas au XVIIIe siècle. Tu as évoqué le fait qu'effectivement, dans beaucoup d'affaires que j'ai d'homicides de femmes, effectivement, on ne tue pas la femme parce que c'est une femme et on la tue aussi pour éviter que ce soit un témoin. C'est vrai que le meilleur exemple, c'est peut-être mon horrible affaire là qui se passe à Luzé, un petit peu au sud de Thouars, où les trois cavaliers qui pénètrent dans l'auberge, effectivement, ils commencent par tuer la femme. Ensuite, je l'ai enlevé parce que c'est tellement horrible que faut quand même que je censure les choses. Ils tuent ensuite le cabaretier. Et puis, il y avait un petit garçon de 9 ans. Lui aussi, il est tué à coups de marteau. Hein, il est tué à tout coup de marteau. Évidemment, il n'y a pas du tout cette préoccupation-là, c'est certain. Là, j'ai pris effectivement les cas d'homicide de femmes, d'ailleurs, mon titre. Hein, j'ai pris à partir du moment où elles étaient mortes. Concernant ta deuxième question sur la notion finalement de crimes conjugaux, en quelque sorte, c'est vrai que ça, je ne perçois pas. D'abord, j'en ai pas tant que ça. J'en ai pas tant que ça, hein, de toute façon. Je fais avec ce que je peux, moi. J'en ai pas tant que ça. J'ai trois affaires. Alors, c'est vrai, Aval, c'est le mari qui tue sa femme. Enfin, je pense que c'est lui qui la tue vraiment. Hein. Sa femme et ses trois petites filles qui ont 7 ans, 10 ans, 11 ans. Apparemment, ils ne vivaient plus ensemble, en plus. Hein, ils étaient domestiques ailleurs. Visiblement, il y a beaucoup de contentieux entre eux. J'ai un deuxième cas, là, la gouvernante du curé, là. Mais son mari, la gouvernante, n'avait plus le voir depuis des années. Hein, et il en a une certaine rancœur, et puis il va lui faire la peau, quoi, un soir. Et puis il fait la peau du curé en même temps. Puis j'ai un troisième cas qui est assez, pas inintéressant, mais je ne l'ai pas évoqué, c'est le cas d'un père, même s'ils ne sont pas mariés, qui va tuer une femme enceinte, et il la tue avec du poison, parce qu'il ne veut pas finalement avoir cette bouche à nourrir ou avoir des problèmes avec de ce type. Alors c'est vrai que, vu les documents que j'ai, évidemment, les considérations, la manière de décrypter les choses est un peu différente peut-être de celle du 19e et 20e siècle, évidemment, où les choses n'ont pas tout à fait les mêmes mots. Voilà.
Merci. Autre question, interrogation, complément? Oui.
C'est très imaginaire tout ça, mais je me disais, est-ce que finalement, dans les violences conjugales, sans qu'il y ait forcément intention de tuer. Les coups peuvent faire qu'il y a mort. Et est-ce qu'il n'y aurait pas eu des affaires qui ne seraient pas arrivées justement jusqu'au niveau de la justice, quoi, qui seraient masquées? Elle est tombée de la grange, elle est tombée du toit, elle est tombée dans le puits, enfin, la pauvre. Elle est tombée. Voilà.
Là, mais on n'en saura jamais. Absolument, rien. C'est certain, mais là, on n'a pas forcément de traces. En même temps, même si ça ne concerne pas des hommes et des femmes, là j'ai quelques affaires que je n'ai pas développées, là, je ne peux pas vous présenter les 15, mais parmi les 15, notamment, il y a un cas qui se passe à Poitiers, c'est une pauvre aubergiste encore, qui a la soixantaine d'années, qui se promène dans la rue, et puis il y a un sergent de police, je résume un petit peu, qui veut l'arrêter parce qu'on lui a demandé d'aller chercher cette femme pour le convoquer devant le lieutenant général de police. Et comme elle ne veut pas le suivre, il va la violenter. Parce qu'il n'aime pas, en fait. Alors, c'est pas sa femme. Hein. Ouais. Et puis, le lendemain, à la suite de ses coups, c'est une erreur, elle va mourir. Je pense que ce cas de figure a dû forcément arriver.
C'est ça. Hein.
Là, il va être pris un petit peu. Mais évidemment, il y a plein de choses qui nous échappent, hein, bien évidemment, en termes de documentation. Mais c'est, je pense, aussi la même chose au XIXe siècle. Oui. Hein. Je reprenais juste une idée que tu avais évoquée ce matin. L'association là, de femmes là, qui veut faire des... Le collectif, là, on pourrait presque faire ça sous l'Ancien Régime. Hein. Ici, a été assassiné à Val, là, je ne sais pas exactement dans quelle maison. Hein, on pourrait presque trouver, l'usée, on peut retrouver, d'ailleurs, l'auberge. Il faudrait faire des choses comme ça.
Merci. Alors, peut-être juste pour apporter un complément et poser une question sur la première communication. Alors, pour le 19e siècle, en tout cas, les statistiques sont peut-être un petit peu plus précises. Il y a peut-être davantage de dossiers. Et on a quand même le sentiment qu'il y a quand même moins de crimes de ce type-là qui échappent à la détection et donc aussi donc, à la justice. Donc, ce qu'on peut mettre sur le compte d'un accident, c'est sans doute plus difficile. Et tout de suite, donc évidemment, la police et la justice sont mobilisées. Mais par contre, alors pas forcément donc ici, le 19e siècle introduit aussi une autre nuance d'importance. C'est qu'on voit apparaître surgir ici ou là quand même une nouvelle catégorie qui est quand même donc le tueur de femmes. Et le tueur de femmes, c'est déjà des tueurs en série. Alors, il n'y en a pas donc énormément. Mais à ce moment-là, donc, il n'y a pas d'autre, quel que soit le mobile ou quel que soit le ressort, les conséquences sont là. On tue plusieurs femmes, soit pour les violenter, soit pour s'emparer de leurs effets, même si ça ne représente pas une fortune colossale, et parfois, évidemment, pour faire un petit peu donc, les deux en même temps. Donc là, c'est aussi donc, une nouveauté, une prise de conscience aussi de l'opinion publique. Il existe des tueurs en série qui s'en prennent uniquement donc, aux femmes. Alors, évidemment, là, on ne va pas changer les qualifications. Le mot particulier donc n'est pas inventé, mais il y a quand même une sensibilité à côté de ça. Alors, ma question maintenant pour la première intervention, donc, alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais là, il avait été dit qu'il y avait finalement pour l'avènement de l'islam deux sources, le Coran et puis les hadiths. Alors, ce que je n'ai pas très bien saisi, c'est que quand on arrive à avoir une société donc, islamique, est-ce que les hadiths jouent encore? Est-ce qu'il y a donc concurrence, si je peux dire, entre les deux façons de faire, puisque les hadiths semblent plutôt prendre la défense des femmes et vanter donc l'égalité des sexes. Voilà. Alors, est-ce que ça circule de façon donc parallèle? Est-ce qu'il y a des interactions entre les deux? Ou est-ce que les hadiths sont là comme ça pour, si je peux dire, pour la connaissance intellectuelle, et puis finalement, donc, on n'y tient pas, ça n'a pas beaucoup d'importance.
On va dire qu'il y a une hiérarchie entre le Coran et le hadith. Le Coran étant la parole de Dieu, donc c'est le summum. Le hadith, c'est un corpus de retranscription, de témoignages des compagnons du prophète. Donc il y en a 4 ou 5 qui sont considérés comme plus vrais que d'autres. Le musulman, par exemple, le Razeli. Tandis que d'autres sont plus souvent apocryphes. Donc il y a une hiérarchie. Simplement, il faut savoir une chose, c'est que tout est une question d'interprétation. Je ne vais pas entrer dans d'autres terrains, mais dans le salafisme, par exemple, on vous dit l'image du salafisme, c'est la barbe mal taillée, etc. Bon, tout ça, c'est parce que dans les hadiths, on écrivait que le prophète Mohammed avait une barbe, elle était rouge avec un peu de henné. Donc, le terroriste qu'on voit aujourd'hui, il a la barbe, il a un peu, elle est rouge, etc. Donc, on va dire qu'il y a des mauvaises interprétations qui sont faites, beaucoup plus souvent à partir des hadiths qu'à partir des Corans. Maintenant, en tant que scientifique, conséquences scientifiques. Les deux sources sont valables, hein, quand on fait des écrits sur l'islam, sur l'anthropologie, la sociologie notamment, la démographie également. On essaie de retrouver les deux sources. Voilà. Ce sont des sources écrites. Elles ont l'avantage d'être écrites.
Merci. Il nous reste le temps pour encore quelques questions. Non, il n'y a pas de... Oui.
Merci pour votre communication. Juste savoir si les hadiths des femmes sont prises en compte. Je prends, c'est-à-dire les témoignages des femmes du prophète. Puisque là, vous évoquez... Je fais juste une référence à un ouvrage qui vient de sortir de Ouria Abdelwahed, qui est à l'université Paris Diderot, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les femmes du prophète », où elle parle beaucoup du fait précisément que les femmes ont témoigné, donc comme vous dites. Est-ce que ces témoignages de femmes... parce qu'il y a eu pas mal de crimes de femmes aussi. Mais est-ce que ces témoignages de femmes sont pris en compte ou est-ce qu'il y a une façon genrée de considérer le témoignage
Alors, ces témoignages sont pris en compte, hein, comme ceux des hommes. Il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Ce sont les femmes du prophète, mais également les filles du prophète qui ont... elles ont l'avantage d'avoir été... être plus proche, donc plus dans l'intimité. Donc c'est à travers elle qu'on sait, par exemple, que le prophète avait une grande vigueur sexuelle, etc. Donc elles existent, elles sont reconnues, mais sur le plan quantitatif, il n'y en a pas beaucoup, voilà, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Mais oui, ce sont des sources qu'on retrouve, hein, dans l'ouvrage que vous avez cité. Oui, ce sont des sources reconnues.
Oui. Donc,
alors, j'avais une petite question pour Monsieur Vizier. Alors, je travaille, moi, je suis sur le 19e siècle, et en fait, je suis assez... ça me rassure un peu que vous ayez ce genre de résultats, parce que j'ai les mêmes.
Je sais pas. Pour comparer mes résultats, j'ai
eu
du mal.
Hein, du coup, moi, j'ai les mêmes. En fait, j'ai énormément de vols. Le vol, alors ça, j'en ai vraiment beaucoup. Et j'ai très peu d'homicides. Mais du coup, moi, ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est que j'avais l'impression que la situation, disons, familiale de la femme qui était tuée jouait pas mal, notamment son célibat. Est-ce que dans vos recherches vous avez vu quelque chose vis-à-vis, ou alors célibat, ou le fait qu'elle soit veuve? Est-ce que veuve? Moi aussi j'en ai eu beaucoup, des veuves. Ok.
Moi, vous avez vu mon corpus?
Mais j'ai pareil, hein. Je suis, ouais.
On peut difficilement avancer des conclusions à ce sujet, hein. Je peux pas dire là-dessus. Peut-être que toi, pour le 19e siècle. Ce que j'aurais adoré, c'est avoir des comparaisons sur les homicides de femmes dans les autres régions. J'ai quelques données sur Lyon.
Moi, je suis à Lyon et à Avignon.
Vous êtes Lyon? Alors, oui. C'est Bayard, moi. Bayard a fait une petite étude statistique là-dessus. Enfin, son corpus n'est pas énorme. Il y a également Paris pour la maréchaussée parisienne de Gomez, je ne sais plus son nom précis. Hein. Mais c'est presque tout. Hein. C'est terrible, en fait. C'est pas si étudié que ça, hein. Hein, les homicides.
Non, c'est vrai que c'est pas très étudié, mais il y a eu quelques mémoires de maîtrise et de master après qui ont été faits ici sur la question du viol, donc dans le département de la Vienne et dans le département des Deux-Sèvres. Donc on peut supposer qu'après il peut y avoir une escalade, mais disons on est obligé de faire des hypothèses. Mais ce qui est intéressant, c'est que là on a assez bien le profil social et professionnel. Et donc à ce moment-là, les victimes, si je puis dire, il n'y a pas beaucoup de travaux sur les victimes, hein, il y a peut-être une recherche en cours que voilà, mais toujours est-il que donc c'est des femmes, disons, entre guillemets, pour le 19e siècle, sans protection. Donc des veuves ou des jeunes femmes qui sont placées comme domestiques de ferme ou comme bonnes dans des villes, voilà, exactement. Mais ça peut être à la ferme ou dans la ville. Ou encore, voilà, des femmes qui sont adoptées le célibat pour être plus indépendantes, mais du coup qui ne peuvent pas compter ni sur le soutien de leur famille, voilà, qu'aurait pu servir d'intermédiaire, ni sur... Donc là, on a bien une sorte de fragilité structurelle par rapport à la place qui est faite aux femmes. Alors évidemment, il faudrait mener l'enquête dans d'autres départements pour voir ce qu'il en est et puis faire une montée, puisque là, c'est par rapport au viol, mais sur, effectivement, donc, le meurtre de femmes ou l'assassinat de femmes, là, les études sont assez fragmentaires. Hein. Et encore... Donc on fait une petite pause de 10 minutes. Alors comme personne ne respecte, ça fait un quart d'heure, mais pas plus. Hein. Donc on se retrouve là.
On y va ? Alors, on va reprendre. Comme ça, ça nous permettra de tenir et les délais et le programme. Alors, nous allons entamer la dernière partie de l'après-midi avec deux communications. Alors, comme je vous ai tous captifs, j'en profite. Je voulais vous dire qu'on vend notre ouvrage. Vous avez remarqué qu'ils m'ont laissé à moi la tâche de dire que cet ouvrage est excellent. Nous l'avons lu, écrit, préface de Catherine Coutel et postface de Michel Perrault. Voilà. Pour dire les choses, il est aussi à la bibliothèque de Michel Foucault. Donc voilà, si l'occasion vous est donnée, ça s'appelle Le corps en lambeaux, violences sexuelles et sexuées faites aux femmes. Et c'est issu de notre précédent colloque. Et évidemment, le féminicide sera publié bientôt, puisque nous y sommes. Voilà. Alors, je reviens à notre programme initial. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau, puisqu'on avait fait connaissance sur un autre projet assez similaire. Donc, Nicolas Picard, qui vient de l'Université Paris 1, et dont le titre de la communication, qui n'a peut-être pas varié, était « La guillotine contre le féminicide, regard sur les victimes féminines des condamnées à mort, 20e siècle ».
Alors, ce ne sera pas le 20e siècle, ce sera la 4e République seulement.
Je vous laisse faire. Pour moi, voilà. Vous savez, c'est très exotique.
Mais du coup, je vais me placer dans la continuité de l'exposé de Fabrice Ligier, de manière un peu décalée, puisque je vais étudier les homicides de femmes, mais je vais aussi voir s'on ne peut pas qualifier certains d'entre eux comme des féminicides. Donc, le terme de féminicide, pour désigner le meurtre d'une femme, d'une fille en raison de son sexe, n'apparaît dans la langue française qu'au 21e siècle, enfin, du moins avec son sens contemporain. Et son utilisation par l'historien pose par conséquent problème avec un évident risque d'anachronisme. Il est cependant d'un intérêt heuristique certain pour réinterroger les violences commises contre les femmes par le passé et pour étudier les réactions du système judiciaire à leur égard. J'essaierai de montrer d'abord, dans une présentation préalable, de manière réflexive, que cet emploi nécessite de surmonter un certain nombre de difficultés, d'envisager de nouveaux corpus ou d'utiliser de manière différente les corpus déjà existants, avant, dans un second temps, de poser quelques jalons et quelques premiers résultats, même si je préfère avertir, ces derniers proviennent de données encore très parcellaires. Alors, en France, le code pénal de 1810 n'avait pas prévu d'infraction spécifique pour les féminicides. La qualité de la victime, non plus que le motif du meurtre, n'entre en théorie dans les définitions juridiques. Seules comptent les circonstances, préméditation, guet-apens, attaque de nuit, attaque à escalade. Il n'y a pas de meurtre spécifique selon les motifs, donc pas non plus de peine spécifique prévue par la loi. Et pourtant, très tôt, dès la première moitié du 19e siècle, les juristes se sont interrogés sur ces motifs et les statisticiens de la justice criminelle en ont même tenu compte dans quelques-unes de leurs catégories. On pouvait dès lors esquisser une mise en relation des motifs du crime avec la peine prononcée. Par exemple, il est rapidement devenu clair que le caractère passionnel, puisqu'on en parle depuis ce matin, pouvait dans une certaine mesure entraîner une mitigation de la peine, en dehors même des cas d'acquittement scandaleux. Alors, pourrait-on par conséquent envisager de la même manière d'observer les affaires où un meurtre de femme en raison de son sexe a été commis? L'objectif serait de voir si la justice avait alors une réponse particulière à travers les peines prononcées, et si par conséquent il y avait un début de prise en compte des féminicides avant que le terme ne soit inventé. Donc si ce motif de féminicide n'apparaît pas dans les statistiques criminelles ni dans les ouvrages de doctrine, on peut cependant cerner des formulations qu'il faudrait réinterroger autour des thèmes de la violence conjugale, bien sûr, de la jalousie de certains hommes, ou encore de problématiques des meurtres à caractère sexuel. Cependant, avant même d'examiner la question du mobile, apparaît une première difficulté. Il s'agit de l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons quant à la répartition des crimes et des condamnations prononcées en fonction de la qualité des victimes, que cette qualité concerne d'ailleurs le genre ou d'autres caractéristiques d'âge, de statut social ou de nationalité. Car si les juristes et statisticiens du XIXe siècle soulèvent la question du mobile pour juger de la dangerosité et du caractère responsable d'un individu, la question de la qualité des victimes leur apparaît comme relativement différente. Enfin, sauf les cas de parricide et d'infanticide. Mais sinon, tous les autres cas, c'est complètement différent. Cette indifférence se reflète d'ailleurs dans l'historiographie. Les victimes en général, et pas seulement les femmes, apparaissent largement jusqu'à aujourd'hui comme les oubliées de l'histoire de la justice. Alors certes, on a des lumières sur les violences subies, bien sûr, des études qualitatives sur les corps saccagés, sur les corps en lambeaux, mais on sait peu de choses sur le plan quantitatif. Ce que l'on sait du caractère genré de la justice criminelle en France au XXe siècle, qu'il s'agit d'abord d'un système où, en très grande majorité, des hommes, qu'ils soient magistrats ou jurés, condamnent d'autres hommes. Alors pour les jurés, je rappelle en effet que, malgré l'ouverture des jurys aux femmes en 1945, Celles-ci, ils sont de fait fréquemment très massivement sous-représentées jusqu'à une réforme de 1980. La part des femmes criminelles est elle aussi très faible, et donc les femmes apparaissent dans ce système judiciaire principalement comme des victimes. Malgré leur nombre important, dans une proportion qui reste cependant déterminée, ces femmes victimes ont reçu moins d'éclairage de la part des historiens que les criminels, que les empoisonneuses par exemple. On peut rajouter que ces femmes victimes ont déjà la chance, si l'on peut dire, de voir leur affaire prise en charge par la justice, à la différence d'autres cas restés dans le domaine de l'infrajudiciaire, qui nécessiteraient eux aussi une investigation. Alors assez modestement, cette communication se propose d'abord de contribuer à combler le manque d'attention portée aux victimes féminines dans les affaires criminelles, avant de revenir plus nettement à la question du féminicide. Donc il s'agit ici simplement de premiers jalons. Alors je tenterai de répondre à la question posée dans le titre, hein, est-ce que la guillotine a été utilisée contre le féminicide? Alors d'abord en esquissant un profil des victimes dont les agresseurs ont été condamnés à mort, puis à partir de deux affaires particulièrement significatives, en examinant les arguments utilisés lors des réquisitoires, et enfin en observant les discussions autour de quelques caractéristiques de ces victimes féminines qui pourraient, dans une certaine mesure, entraîner l'octroi de circonstances atténuantes pour les agresseurs. Alors, premier point, la pesée des victimes féminines. Alors, pour juger du caractère plus ou moins répressif de la justice lorsque des femmes sont victimes de crimes, la démarche la plus évidente serait de partir de l'étude d'une infraction particulière, par exemple l'homicide volontaire, et de considérer l'éventail des peines prononcées contre les agresseurs afin de cerner les cas entraînant une particulière sévérité. Alors, le problème réside dans le fait qu'il faudrait constituer au préalable un corpus de victimes, ce qui constituerait en soi une enquête particulière. Donc, j'ai donc choisi d'envisager le problème autrement, en partant de l'étude des victimes des condamnés à mort en France au XXe siècle. En effet, j'ai déjà, dans mes recherches antérieures, constitué le corpus des condamnés à mort. Et il m'était donc plus facile de m'en servir pour constituer un corpus de victimes à partir du dépouillement des dossiers de grâce. Alors, je me suis limité pour l'étude que je vous présente à la période de la IVe République, période particulièrement cruciale pour l'histoire des droits de la femme, puisque c'est à ce moment-là qu'elles accèdent au droit politique. Alors je vais maintenant esquisser un panorama général de ces victimes de condamnés à mort et des mobiles de leurs agressions. En ne comptant que les victimes décédées, j'ai répertorié 234 hommes et femmes entre 1947 et 1958. Il ne s'agit cependant que d'une partie d'entre elles, les dossiers étant lacunaires, et les chiffres que je donne comportent donc une certaine marge d'erreur. Bon, cependant, on peut dire que près de la moitié des condamnés à mort comptent parmi leurs victimes des femmes. Qu'ils aient commis des crimes à tonalité sexuelle, conjugale ou crapuleuse. Les femmes sont légèrement minoritaires parmi les victimes, elles représentent 44%, soit 103 cas, alors qu'elles sont légèrement majoritaires dans la population générale. Alors, cela reflète probablement davantage leur moindre implication dans tous les trafics qu'il y avait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc une moindre implication dans les affaires criminelles qu'un manque de répression contre leurs agresseurs. Mais ça reste à étayer. Ces 103 victimes féminines de 1947 à 1958 présentent des profils très variés, tant du point de vue de l'âge que de la classe sociale. On y trouve aussi bien des jeunes prostituées abattues par leurs souteneurs que des veuves âgées agressées à leur domicile ou des femmes assassinées par leur mari. Alors précisons un peu quelques caractéristiques pour ce qui est de la répartition par âge. Sur 76 pour lesquelles cette donnée est indiquée, 9 sont des mineurs, 13 ont entre 20 et 39 ans, 19 ont entre 40 et 59 ans, et 34 ont plus de 60 ans. Il s'agit donc principalement de femmes âgées. Pour ce qui est de la profession, 19 sont cultivatrices ou anciennes cultivatrices, 13 appartiennent au monde de la petite boutique, 7 sont rentières ou de classe moyenne, 6 domestiques ou femmes de ménage, 5 appartiennent au monde ouvrier. Alors, le profil social est généralement peu élevé, hein, même si on trouve quelques rentières, mais même s'il est peu élevé, c'est globalement moins misérable que celui de leurs agresseurs, qui sont encore plus pauvres. C'est le vol qui semble en effet avoir motivé l'acte criminel dans la grande majorité des cas. Pour ce qui relève des autres mobiles, on ne compte entre guillemets que 7 cas de viol ou d'attouchement sexuel, alors pré- ou post-mortem. Il faut aussi distinguer les cas de meurtre pour jalousie ou à la suite de violences conjugales. Donc ça forme 16 cas. Et il y a enfin les cas de violences intrafamiliales autres, comme les parricides ou les infanticides. Alors les parricides qui reposent souvent sur l'accumulation de ressentiments. Et donc je ne sais pas si on peut vraiment les qualifier comme des féminicides. Alors deuxième temps de mon propos, nous allons voir comment ces agressions de femmes sont caractérisées par la justice
à travers l'étude des propos des réquisitoires et de la possible instrumentalisation du caractère féminin des victimes afin d'obtenir une condamnation capitale. Alors on s'aperçoit assez fréquemment que le fait pour un homme de s'attaquer au dit sexe faible présenterait un caractère particulièrement odieux. Donc dans le cas des victimes les plus jeunes, les avocats généraux insistent volontiers sur la douceur de leur caractère ou sur leur beauté physique. Donc la guillotine maniée par des hommes serait utilisée dans une perspective chevaleresque, je reprends ici un terme qui est parfois utilisé par la criminologie. Cependant, on constate aussi que le caractère féminin se conjugue à d'autres aspects de la faiblesse, comme principalement la vieillesse, comme aussi l'extrême jeunesse, ou encore la pauvreté, et ces aspects de faiblesse sont peut-être plus déterminants que l'aspect genré. De plus, le fait que la victime soit féminine ne suffit pas, par ailleurs, à caractériser un féminicide. Et j'ai essayé d'aller plus loin pour voir comment était envisagé le sexisme, l'infériorisation ou la haine des femmes dans certaines affaires. Donc j'ai choisi de me concentrer sur deux d'entre elles, deux affaires jugées en 1949 et 1950, et présentant des profils très différents. Alors la première affaire se déroule à Marseille en 1947. Donc un jeune homme de 24 ans, Oreste Briado, immigré clandestin italien, laveur de vitres, est accusé d'avoir tué une jeune dactylographe, alors 29 ans, alors l'adjectif de jeune est donné par la presse. Donc il a tué cette jeune dactylo dans un magasin de tissus afin de s'emparer du contenu d'un coffre-fort. Donc la victime s'appelle Thérèse Grumbert, elle était de la vie générale très jolie. Le crime est particulièrement sanglant, la victime ayant eu le crâne fracassé à coups de marteau. 14 plaies sont relevées, ce qui témoigne d'un acharnement particulier. La victime a aussi été bâillonnée, un mouchoir profondément enfoncé dans la gorge. Le motif semble ici purement crapuleux, et pourtant, la question de la haine des femmes est posée par les avocats de la défense. Il se trouve que le condamné est un homosexuel, prostitué à l'occasion, très efféminé. Les avocats reçus en audience par le président de la République qui doit statuer sur une mesure de grâce suggèrent à ce dernier l'idée que l'homosexualité du condamné serait à l'origine d'une haine irrationnelle, je cite, des femmes jeunes et jolies, et que par conséquent, Oreste Briado devrait bénéficier d'une atténuation de sa responsabilité. La haine des femmes est donc ici utilisée comme un élément d'excuse. Alors j'ai cherché à voir si cette question avait été traitée lors du procès, notamment si ça avait été posé dans la question du réquisitoire. Donc le procès a lieu en juin 1949 et la presse oppose d'emblée la figure de l'infâme vicieux à la fraîcheur innocente de la victime. On peut lire dans les comptes rendus de presse que Maître Thémin et Maître Polak avancent, entre autres arguments, les responsabilités partielles de l'accusé en raison de son homosexualité. Mais les comptes rendus ne sont malheureusement pas très détaillés et la question de la haine des femmes n'est pas évoquée. En tout cas, les arguments du réquisitoire ne se placent pas sur ce terrain offert par la défense. Ils mettent surtout l'accent sur les circonstances du crime et son mobile crapuleux. Il s'agit de démontrer qu'il y a eu préméditation, une exécution froide, rationnelle de l'acte, et donc excluant l'idée de toute passion, de toute rage irrationnelle. Et donc on met en avant l'absence de compassion, on met aussi en avant la défense de la société, en mentionnant en particulier les multiples crimes commis par des étrangers à Marseille. Donc dans cette affaire, la question d'un éventuel féminicide n'est pas exploitée par l'accusation. La deuxième affaire dont j'ai approfondi l'examen se déroule à Paris. Donc dans la nuit de Noël 1948, une jeune prostituée, Germaine Sibéril, alias Carmen, est poignardée par son souteneur et amant, Raymond Schleich. Le fait que la victime soit une prostituée, une femme sans vertu, comme le titre Le Figaro, pose la question de la façon dont la justice considère la protection accordée à cette population particulière. Les meurtres de filles soumises par des souteneurs sont en effet assez fréquents et n'émeuvent que rarement l'opinion. Et pourtant, il y a quand même des crimes commis contre les prostituées qui sont parfois punis par la peine de mort, et ce, dès la Belle Époque. Alors Laurence Montel a par ailleurs montré dans une contribution le changement de regard qui s'opère vis-à-vis des prostituées sous la Troisième République. De plus en plus, on les considère comme des filles malchanceuses, exploitées, davantage que comme des filles vicieuses, ce qu'on avait plutôt tendance à voir auparavant. Bon, Laurence Montel a aussi souligné les limites de ce changement de regard. Dans le cas de l'affaire Carmen, le procès s'ouvre le 19 décembre 1950, il s'étend sur 2 jours, bon, parce que l'accusé nie être le véritable assassin et tente de faire croire à l'existence d'un deuxième homme. Mais outre cet enjeu, le procès cherche à caractériser le crime. S'agit-il de violence ayant dérapé, du crime d'un amant jaloux, donc un crime passionnel, ou s'agit-il d'un crime plus sordide, celui d'un proxénète marquant son droit de propriété sur une femme ? Donc même si la victime appartenait à un monde peu recommandable, elle est cependant reconnue comme la travailleuse qui refusait désormais de travailler pour Raymond Steich. Et c'est sur ce terrain que se place le réquisitoire. L'un des moments forts est l'explication par l'avocat général de la double entaille relevée sur le visage de la victime. Cette croix, alors je cite, « Cette croix des vaches ferme la porte au doute. Elle dit en langage du milieu que Germaine, la gagneuse, a trahi son souteneur. Steich a mis la griffe sur le crime. La croix des vaches est plus qu'une preuve, c'est votre signature. » Et la brûlure de cigarette sur le visage qu'elle a également subi est interprétée de la même manière. Donc les gestes visant à marquer la soumission de la femme sont donc particulièrement mobilisés pour susciter l'effroi et la réprobation et obtenir une condamnation. Pour autant, l'avocat général reste assez timoré dans sa dénonciation de la condition faite aux prostituées. Et là encore, le sexisme semble rester en dehors de l'argumentation. Donc j'aurais pu continuer encore à citer d'autres exemples, mais il semble bien que l'infériorisation des femmes ou l'éventuelle haine à leur égard ne semble pas vraiment employée comme élément aggravant dans les accusations, ou alors de manière ponctuelle. Et ce n'est pas non plus vraiment discuté dans les débats judiciaires, enfin du moins dans les fragments qui nous sont rapportés par la presse. Et donc ce sont toujours d'autres éléments qui concentrent l'attention, et donc notamment voilà, la préméditation, le caractère crapuleux, les choses comme ça. C'est plutôt ça qui suscite l'effroi que le caractère féminin de la victime. Alors par ailleurs, certains meurtres de femmes sont jugés plus excusables que d'autres, notamment si ces femmes apparaissent dévalorisées aux yeux de la justice. Alors, c'est ce que je vais examiner rapidement avant de conclure. Le fait d'être une femme implique pour la victime un scrupuleux examen de sa moralité et de sa conduite, notamment sexuelle, pour vérifier qu'elle n'aurait pas provoqué d'une manière ou d'une autre son agresseur. Alors, André Roche, dans son ouvrage « L'amour à la lumière du crime », a bien montré que dans l'affaire du lac Chambon, jugée en 1936, la responsabilité de la victime dans sa propre mort a représenté l'un des principaux axes de la plaidoirie du défenseur. Pour la période de la 4e République, on relève aussi dans certains dossiers des réflexions peu amènes sur les victimes. Par exemple, une ouvrière qui est massacrée en 1949 à coups de hachette et qui est aussi étranglée dans le cadre d'un drame plus ou moins passionnel est ainsi caractérisée par des renseignements policiers, je cite, « de conduite et de moralité pour le moins douteuse. Au cours de sa vie, elle a eu de nombreux amants et dans les milieux les plus divers. Elle aimait également la compagnie des femmes et hébergeait constamment de jeunes filles. Toutefois, il n'est pas possible d'affirmer qu'elle était de mœurs spéciales. » En 1935-36, elle exploitait un café à clientèle presque exclusivement composé de filles publiques. Pendant l'occupation, elle fréquenta des militaires allemands. Alors certes, son agresseur est condamné à mort, mais le fait qu'il soit maghrébin a peut-être aussi joué un rôle dans la sévérité de la peine, et il est en outre gracié. Alors il faudrait sans doute examiner d'autres affaires dans lesquelles la peine de mort n'a finalement pas été prononcée pour prendre la mesure de cette disqualification de certaines victimes, et notamment des femmes, pour des conduites sortant de la morale et des normes traditionnellement admises pour leur genre. Donc, pour conclure, comment estimer l'attitude de la justice par rapport à ce que nous appellerions des féminicides ? Il ne semble pas, selon ces premiers éléments, qu'il y ait vraiment une prise en compte. On a pu chercher à montrer qu'avec leur sensibilité propriétaire, les jurés défendaient un certain ordre social, en n'hésitant pas à prononcer la peine de mort pour des crimes crapuleux. On a pu aussi montrer leur volonté de défendre les classes populaires travailleuses. Ils se montrent aussi à l'évidence soucieux de défendre les intérêts des catégories perçues comme étant particulièrement faibles et sans défense, notamment les personnes âgées, les enfants, et peut-être donc dans une moindre mesure les femmes. Mais s'ils protègent les femmes, c'est à cause de leur supposée faiblesse. Ce n'est pas pour défendre leurs droits, et ce n'est pas pour les protéger du sexisme, ou pour lutter contre la misogynie. Donc ma conclusion est provisoire, mais pour l'heure, je ne crois pas que l'on puisse affirmer que les crimes s'apparentant des féminicides étaient perçus comme vraiment spécifiques par la justice criminelle au XXe siècle. S'il n'y a pas eu d'impunité, il n'y a pas non plus de sévérité particulière. Je vous remercie.
Merci Nicolas Picard. Et nous allons... finalement, comme nous avons commencé par le Mexique, nous allons aujourd'hui encore terminer par le Mexique, puisque incontestablement, on a là un terrain privilégié à la question. Et nous allons écouter Caroline Fourret, qui vient... Cathy, pardonnez-moi, je l'avais sous le nez. Je vous prie de m'excuser. Cathy Fourret, qui vient de l'Université de Lille et dont la contribution s'intitule « Narrer le féminisme au Mexique, un art de l'urgence ».
Bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, merci à l'équipe organisatrice pour leur accueil très chaleureux. Et puis en fait, cet exposé, sans le savoir, va illustrer le concept de féminicide au Mexique tel qu'il a été exposé ce matin par Marilène Lapalu. Alors, longtemps circonscrit au nord du Mexique, dans un contexte géopolitique de contrebande et de libre-échange à outrance qui n'ont fait qu'exacerber les cruelles inégalités entre les hommes et les femmes, le féminicide est aujourd'hui un problème de santé publique majeur dans un pays qui a du mal à se défaire d'une organisation sociale patriarcale confortée par de tenaces comportements machistes et sexistes. Malgré la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulguée en 2007, 3892 Mexicaines entre 2012 et 2013 ont été assassinées, tandis que l'on recensait une moyenne de 7 assassinats de femmes par jour au cours de l'année 2013-2014, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Par surcroît, le 17 août dernier, une étude officielle réalisée entre octobre et novembre 2016 reconnaissait que la violence de genre était très élevée dans le pays, notamment dans le cercle familial. 43,7% des femmes âgées de plus de 15 ans ont été agressées par leur conjoint. Une Mexicaine sur 10 a été victime d'abus sexuels pendant son enfance. 9 victimes sur 10 ne dénoncent pas les mauvais traitements qu'elles ont subis aux autorités correspondantes. Cette affolante réalité s'insère dans une situation interne d'une confuse instabilité. Ces 10 dernières années, au cœur de la guerre déclarée par le gouvernement mexicain contre les cartels et de territoires qui ont été militarisés, plus de 150 000 personnes ont perdu la vie, 250 000 sont en exode et plus de 30 000 ont disparu. Dans ce contexte de conflit armé non reconnu par la communauté internationale, le féminicide a atteint des proportions alarmantes dans des régions telles que Guerrero, Veracruz, l'Edomex, gangrénées entre autres par des activités délictueuses et des trafics en tout genre. De la drogue au commerce sexuel en passant par les réseaux d'extorsion, de séquestration ou de disparition forcée. Dans une actualité nationale qui depuis 2006 a particulièrement empiré en termes de dégradation de la valeur de la vie, les assassinats de femmes peinent à se faire entendre, entre autres parce qu'ils sont commis dans un panorama où les hommes meurent énormément et atrocement. Dans l'urgence de la situation, des tendances du journalisme narratif, une pratique d'enquête de terrain qui, dans la reconstitution de l'information, réemploie les outils de la littérature pour offrir une meilleure lisibilité du réel, ainsi que le discours littéraire et iconographique, documente les formes de violence faites aux Mexicaines et pense autrement leur terrifiante gravité. Afin d'illustrer ces narrations qui se font dans l'immédiateté et en font leur sujet pour si ce n'est changer le présent lui rendre son sentiment de colère et de protestation, nous proposons d'étudier deux représentations de féminicide à partir tout d'abord d'une photo de presse qui se réclame d'un roman, dans l'articulation et l'énonciation que le dit roman adopte au sein de sa fiction pour raconter les femmes assassinées à Ciudad Juárez, puis d'une série de photomontages de l'artiste mexicain Gustavo Monroy qui retrace un Mexique prédateur pour ses citoyennes. Ces supports conduisent au questionnement suivant. Que révèlent ces dispositifs narratifs que la propre réalité ne voit plus ou s'essouffle à montrer? Que nous disent-ils sur ces corps brutalisés et leurs agresseurs, sur la société mexicaine actuelle, sur les types de violences que pâtissent de nos jours les Mexicaines? Que parviennent à construire, à reconstruire ou à déconstruire le textuel et le visuel quand un état de droit en défaut, le déni de justice, l'ordinaire patriarcal l'emporte sur des vies de femmes démolies? Cette photo de presse a été prise, comme l'indique la légende, en juin 2011 dans la ville de Ciudad Juárez, donc c'est dans l'état de Chihuahua, c'est ce nord mexicain qui est frontalier avec l'état états-unien, le Texas, puis publiée dans l'hebdomadaire politique Proceso, dont je vais vous montrer la couverture. Voilà, en novembre 2012, cet hebdomadaire politique donc a publié un numéro spécial où sur la première de couverture est inscrite la formulation « Le sexénat de la mort, mémoire graphique, même ici photographique de l'horreur ». Ce titre lapidaire, mais qui n'en relève pas moins de la maxime et de la sentence sans appel, condense sous la figure de l'oxymore la présidence d'un pays régi par une démocratie constitutionnelle qui n'a pas œuvré dans le vivant, comme le reflètent les chiffres sur l'insécurité précédemment cités. À la suite de deux articles, unique support textuel de ce numéro, une tribune de la rédaction du journal sur la liberté d'expression et un virulent prologue de l'écrivain Juan Villoro. Se succède un chapelet de portraits nécrosés, de cruauté et d'improbable, mais bien réel paysage de Charonne capturé par des reporters au cours de leur mission. Donc en fait, vous avez toute la revue ne propose à la vue que des débris humains. Ce sont donc des corps criblés de balles, mutilés, décapités, pendus. Alors tantôt mis en scène par les propres tortionnaires, tantôt déterrés des fosses clandestines par la police, tantôt giclant sans crier gare dans une fusillade. On pourrait bien entendu questionner la pertinence d'une telle publication. Tombe-t-elle dans un voyeurisme gore ou dans un électrique processus de prise de conscience? Récupère-t-elle dans ces crimes terribles la condition humaine ou participe-t-elle à leur banalisation? Est-ce en sidérant le regard du lecteur que l'on parvient à le commotionner, à le scandaliser, ou est-ce en lui montrant tout que l'on finit par anesthésier sa capacité à s'émouvoir et à s'insurger? L'image stricto sensu peut-elle nous dire à elle seule une nouvelle réalité déficiente dans sa représentation chez d'autres formes d'expression? Dans ce complexe débat où s'entremêlent des questions éthiques, des questions sur la formulation et la transmission du savoir, il n'en demeure pas moins que Processo embrasse page par page des documents visuels familiers de rapports légistes ou de police au nom tel que le préface l'équipe éditoriale du droit à l'information, à savoir l'exhaustivité qui est la promesse de tout dire et l'hétérogénéité qui est la promesse de parler de tout. La revue érige aussi ces photos comme des evidencias, ça veut dire preuves, en espagnol. Ça vient du latin evidentia, qui signifie visibilité, clarté, transparence, face à des données chiffrées bornées à un décompte anonymisant de cadavres dans un pays où le taux de victimes est dédramatisé, voire justifié par la bureaucratie gouvernementale pour revendiquer sa politique sécuritaire, où les enquêtes menées par les autorités compétentes peuvent être obstruées, falsifiées, fragmentées, où il n'est pas bon d'exercer la profession de journaliste. Plus de 80 d'entre eux ont été tués au cours de la dernière décennie. Revenons à présent à la photo. Voilà, que compte... cet exposé, dans un premier temps, à l'une des raisons qui a motivé son choix. Dans l'édito rédigé par l'équipe de Processo pour légitimer la diffusion de ces photos, il mentionnait l'écrivain chilien Roberto Bolaño pour expliquer la structure de ce numéro spécial, à savoir cette concaténation d'autopsies, d'anatomie illisible. Processo, qui est un journal d'investigation, porte et défend son intrusion dans la crue réalité, en revendique la restitution, tout en admettant que dans l'organisation de sa complexité et de sa perception, il fait appel à des stratégies narratives issues de la littérature qui faciliteront une perception plus lisible du réel. Le montage pour lequel l'hebdomadaire a opté leur a été guidé par Bolaño, qui est l'auteur de 2666, un roman posthume datant de 2004. Dans ce roman, Bolaño met entre autres en scène une ville, Santa Teresa, support fictionnel de Ciudad Juárez et de son actualité criminelle. La quatrième et la plus ample section du livre, la parte de los crímenes, se compose principalement d'une centaine de descriptions cliniques de victimes de féminicides recensées entre 1993 et 1997 et brosse le portrait d'une ville, et je cite le texte, qui sent le cadavre et qui est une preuve de plus de la richesse souvent atroce du paysage humain. L'épigraphe du roman, une oasis d'horreur au milieu d'un désert d'ennui, l'un des vers du poème Le Voyage de Baudelaire, prélude cette odyssée de l'effroi où les victimes n'en finissent pas de mourir et sert de pierre tombale pour toutes ces filles et femmes sans sépulture qui traversent les 1000 pages de cette élégie funèbre. 2666 est une année nécrophile, c'est un code maléfique de sifflante, 666, qui désigne la bête, hein, le symbole du mal, qui imite aussi le vent vicié qui balaye dans la fiction le désert de Sonora, sonore, dans un tonnant silence macabre. C'est aussi une année qui médite sur la perdition de l'homme et la destruction de la femme. La faune belliqueuse et rapace qui végète dans l'espace urbain et sa périphérie, ses aliments gâtés, sa viande avariée, sont autant d'indices hostiles évocateurs de femmes torturées. Ce climat prédateur se répercute dans le ciel, lequel, au crépuscule, se fond en une fleur carnivore et vire à la plaie, à l'infirmité pour ses habitantes. Un foutu paysage pour femmes, lâchera un sportif au journaliste afro-américain Fate, qui, lui, n'y voit qu'un portrait du développement industriel dans le tiers-monde, un aide-mémoire de la situation actuelle du Mexique, un panorama de la frontière, un récit policier de première grandeur. Santa Teresa, à la fois femme et sainte sur le plan onomastique, investit pleinement l'étiment de Santa, Sanctus, soit ce qui est sacré, lui-même issu du latin sacer, qui signifie autant lâché que saint. Là, évidemment, ça renvoie à la notion de Giorgio Agamben, hein, l'homo sacer, c'est-à-dire cet être humain le plus infâme, maudit, exécrable, qui ne mérite pas de vivre et qui, à ce titre, est légitimement supprimable, un être sur lequel l'on exerce un droit de gestion totale de vie et de non-existence, et dont le corps biologique peut être exposé au supplice, à la séquestration et à la mort. Dans 2666, les rapports légistes qui autopsient les victimes se lisent à l'égard de la revue Proceso, qui en a pastiché le canevas, comme de véritables encyclopédies de l'horreur, où les visages frappés, défigurés et fracassés, visages de la disjonction, cherchent à rendre toute mémoire impossible. Proceso n'a pu qu'être pétrifié par la réciprocité analogique entre ce que sa photo nous montre en 2011, un pied de femme entassé dans l'ordure, et ce que la fiction de Bolaño en 2004 mettait déjà en texte pour tenter de scruter un réel dont l'interprétation en dirait davantage que la réalité elle-même. Cette interprétation, ce sont des paragraphes de corps de femmes réduits à un champ de bataille, un territoire conquis, un produit consommé, jeté dans une décharge, dans le vide béant du flux défécatoire, où leurs cadavres valent autant que des paquets éventrés, des boîtes pilonnées, des caisses défoncées. La plus importante décharge de 2666 porte le nom de Chile, lieu possible d'une impossible sépulture et qui symbolise pour Bolaño le déchet du déchet ou le déchet ultime, c'est-à-dire quelque chose d'immonde et d'informe pour nous dire que dans certains endroits sur Terre, la femme n'est qu'une merde. En effet, du nom de cette décharge, El Chile, se répand une pluralité sémantique reliée à l'univers de la souffrance, du supplice et de la dissimulation. Je vais simplement rappeler l'une des acceptions de ce que veut dire Chile en espagnol. Dans le langage populaire mexicain, el chile, c'est le piment, mais ça veut dire aussi le pénis. Si par la perméabilité du collage symbolique de l'écriture, dont la grandeur est de perturber notre regard, Bolaño a touché le corps tragique de femmes dépaysées par la violence. Cette photo de Proceso, dans la mouvance de la variation du quotidien et des fertiles ressources de son abomination, se cogne contre l'irruption du tout possible dans l'épreuve de la vie et attrapé dans la réalité l'allégorique collage disparate de l'horreur narrée par Bolaño. Alors, que regarde cette photo? Qu'encadre-t-elle? Que saisit-elle? Que nous dit-elle? Le référent, la cible de l'objectif immortalisé dans un gros plan, est un bidon blanc. Vraisemblablement un seau de peinture usagé planté au beau milieu de ce qui pourrait être un terravague, un taudis ou une décharge. La toile de fond, sensiblement floutée, est plongée dans une pénombre ténue, laisse en effet apparaître des formes colorées, insaisissables dans leurs contours et leur matière. S'y détache un site lunaire d'un grisâtre sépulcral, avec cette terre cave et presque sidérale frappée de sidération, soit d'une influence funeste. C'est un site proche du post-apocalyptique dans lequel est inscrit l'épilogue d'une catastrophe, d'où cette impression d'accalmie inquiétante. Car ce temps paralysé où rien ne se passe puisque tout a déjà eu lieu, l'apaisement ambiant ne circule qu'à la lueur d'une pressante éclaircie, pesante éclaircie de détraquement. L'arrière-plan de cette photo de presse se dessine presque hors du monde, comme si le photographe doutait lui-même de son existence, comme s'il avait la sensation que son appareil avait déclenché un brutal réveil dans une réalité défiant toutes les lois du probable. Cette toile de fond, bien que dépouillée de tout signe du vivant, habitée par une désolation aussi étrange que les taches difformes qui lui donnent consistance, emplit notre vue de mouvements grimaçants, dissonants, qui nous poussent en quelque chose d'inconcevable, d'irréconciliable, mais qui est bien là, et qui nous attend pour nous être crachés en pleine face. En effet, cet endroit, quelque part dans Ciudad Juárez, indécelable topographiquement, bouleverse tous nos repères et brouille tous nos signifiés en mettant en avant une peau de cauchemar. auréolée d'une luminosité éclatante, d'une densité scandaleusement spectaculaire. La grossière barrique qui trône en tête de la photo tient lieu non seulement de poubelles de fortune, mais aussi de caveaux. Cette scène terrassante renvoie dans un premier temps à une information classique, un vide à ordures et à ses signes, des détritus. On y distingue des planches de bois vermoulu, un tiroir décapé, une serviette de bain. C'est une scène naturelle dont l'homogénéité formologique, morphologique des objets usagés, ainsi que l'unité sémantique, leur inutilité, authentifie et de façon univoque la fonction du bidon auquel son contenu donne sens, le domaine du résidu. Dans la chambre claire, Roland Barthes examine la photographie comme un champ alterné de « voyez, vois, voici ». Un langage déictique du hasard qui nous entraîne dans le désordre immense des objets pour repérer ce qui va surprendre. Et ici, dans la normalité de cette poubelle improvisée, loge un élément qui cohabite avec le déchet mais qui en interrompt la cohésion parce qu'il n'appartient ni à son monde ni à son champ lexical. Ce sont ses deux pieds coincés, compressés à l'égal des autres résidus et dont le reste du corps a été opprimé jusqu'au fond du trou, dans la fosse obscure de l'impureté du rebut que l'on met à l'écart, que l'on ne veut plus voir. Ses pieds, à la plastique souple et gracile, aux proportions frêles, aux ongles vernis de bleu, posent la présence plus que probable d'une femme en tant que cadavre, mais cadavre vivant qui vient percer le spectateur. C'est selon Barthes le punctum. Cette piqûre est aussi coup de dé, cet imprévu dans la photo qui pointe celui qui la regarde, le meurtri, l'empoigne dans cette preuve sûre d'un réel et dans le cas exposé d'un réel de mort. Nous ignorons comment cette femme a été tuée, comment sa dépouille a été livrée à ce qui est malpropre, abîmé et irrécupérable. Si des témoins ont assisté au dépôt de ce corps dans la puanteur clandestine de l'ordure. La photo ne peut rendre à la vue l'événement criminel en certifier l'exactitude, mais reconstitue la réalité du « ça a été ». Voilà ce qu'elle donne à voir. Une femme qui a été bazardée dans un seau à ordures, une femme qui a été salopée et enterrée dans la saloperie. L'ordure a une telle force d'expansion qu'elle fait de ce lambeau de femme totalement sien et en déduit une vérité qui ne peut être niée. La morte est là comme chose consommée, chose éjectée, plaquée dans la platitude de la pourriture et dans le travail de la décomposition. Dans ce matelas d'ordures, dans cette exécutable disponibilité du corps qui déborde dans l'espace de l'annulation, du foutu, triomphe la réalité de la femme avec et au-dessous de la merde, de la femme en tant que déchet humain. La mouche mise en relief par la blancheur virginale de la serviette qui nous engage dans la netteté de cette effroyable tragédie, agglutinée goulûment sur l'un des talons de la victime, parachève d'ailleurs la facture de la femme rebut. La mouche, c'est le parasite du déchet dont elle vit, qui affectionne l'excrément, les morts sans nom, leur misère. La seule vibration organique sort de cet insecte, lequel, aussi minuscule soit-il, colonise démesurément ce corps tueur renversé dans l'inhumanité et dont ce même insecte est le miroir puisqu'il personnifie cet être que l'on peut faire crever en un instant parce que sa vie, ici celle d'une femme, est d'irressade, aussi indifférente que la destruction d'une mouche. Mais un cadavre sans mouche, répliquerait Genet, n'est qu'un sinistre cadavre. Les mouches font, aussi hideux que cela puisse paraître, partie du deuil. Elles rappellent à l'organique, à l'animé ce corps qui a été violenté, ramassé, ratatiné. Et là où plus personne n'était là pour le voir, le photographe a capté et retenu sans en noter l'effroi ce reste de femme qui résiste à sa totale disparition. Il l'a rendu à notre vue, à notre savoir visuel qui ne pourra plus dire qu'il ne savait pas. À notre acuité mémorielle pour que cette barbarie ne soit pas rangée que comme un document d'archives. Jeté comme un déchet parmi d'autres, indifférencié du fourbi qui a été emmagasiné et empilé, le genre humain dans cette photo quitte enfin le supplice post-mortem auquel il a été abandonné. La lumière en discordance avec le fond sombre, tel un clair-obscur et qui enveloppe la détresse de ses pieds, permet d'extraire la victime de ce grand corps de la ruine et de l'immondice et de lui réattribuer ce qui demeure encore de son identité. Le pouvoir du photographe, c'est d'avoir cerné et communiqué dans une clarté terrible cet enfer individuel que l'artiste Gustavo Monroy va quant à lui confronter à un enfer collectif où c'est ainsi que les femmes au Mexique peuvent mourir. Alors c'est cette terreur qu'est le féminicide qui met à terre, et mettre à terre n'est rien que détruire, que l'artiste mexicain Monroy comme créateur parcourt, considérant que l'art, son art, ne peut être en dehors de son temps et qu'il se doit de reconstituer ce temps de cruelle réalité accepté, atténué et contexté par ce caragon appelé le réel historique, qui se refuse à voir certaines réalités et que l'art peut libérer, car l'art finalement en est toujours d'un manque, et souvent d'un manque de ce que fait le monde des hommes. Monroy a jeté, Alors, désœuvré par une réalité qui pense l'humain comme un objet de spéculation qui rend davantage service à la mort qu'aux lois de la vie, Monroy raccroche donc son art à ce qui n'a pas encore trouvé son dire, mais qui doit requérir de l'imagination pour tâcher d'être dit. Voilà, je vais vous montrer quelques... Alors au Mexique, la Commission Ejecutiva de Atención a Víctimas, qui tout en considérant qu'il est difficile d'évaluer les délits sexuels sur l'ensemble du territoire en raison du silence des victimes qui craignent d'être stigmatisées, signale que pendant la période 2010-2015, 2 996 180 femmes ont été abusées sexuellement, soit 600 000 par an. C'est ce corps violenté et ce corps tué de la femme que Gustavo Monroy montre et dénonce en une série de photomontages réalisés en 2010. L'intrusion de la réalité de cette violence dans la représentation se concrétise à partir d'un sommaire assemblage d'objets appartenant à des domaines facilement reconnaissables. Des jouets fortement genrés, la poupée Barbie, des figurines de guerre avec armes et chars d'assaut, et de matières variables, de la terre bêchée ou remuée, parsemée de mauvaises herbes, de l'eau de lit de vin, du scotch, des élastiques. Les objets manufacturés relevant du ludique et qui imitent dans leur fonction initiale ce que l'on attendrait du sexe féminin, de la beauté, être sexy, du soin, du raffinement, et du sexe masculin, être combatif, conquérant, chevalier, protecteur, tout en préservant leur sens premier qui contribue dans l'éducation des enfants à leur rappeler qu'être une femme ce n'est pas être un homme, servent à imiter dans un secondant l'objet d'exploitation que peut être le corps féminin. Se succèdent donc des scénettes qui sont des collages photographiés en gros plan par Monroy et structurés par une austère économie de matériaux généralement pauvres ou de mauvaise qualité. Les jouets en particulier sont familiers des magasins discount ou des vendeurs de rue hein, qui sont très développés dans l'économie informelle, notamment les tianguis, peu chers et dont aisément accessibles. Cette humilité des instruments employés et leur épurée mise en scène répondent à deux stratégies symboliques. Premièrement, ces jouets commercialisés dans le monde entier, produits de la globalisante société marchande, véhiculent des conduites archétypales censées définir l'être homme et l'être femme. Si l'artillerie militaire suggère ce que l'homme est à même de faire et de vous faire, la poupée mannequin n'exprime la femme que dans son apparence, ses goûts vestimentaires et cosmétiques, que dans l'image de la féminité qu'elle donne d'elle-même et qui n'est là que pour être observée et flattée. Ce type de jouet, sous-entend Monroy, participe dès le plus jeune âge à des représentations du masculin et du féminin qui prônent l'inégalité entre les sexes ou s'opposeraient à l'essence du mâle et celle de la femelle. La force face à la délicatesse, l'action face à la contemplation, la puissance face à la complaisance. Deuxièmement, Monroy intègre dans ses collages les jouets dits pour garçons sans aucunement les retoucher. Ces objets campent intacts et impérieusement dans des situations dynamiques et des attitudes de supériorité où ils encerclent, tiennent en joue des squelettes vêtus d'une robe de soirée ou arborent dans un geste triomphant la tête décapitée d'une poupée Barbie. Le jouet dit pour fille est quant à lui démantibulé, simplifié à l'état de gibier et brandi simultanément comme un trophée ou une loque. Monroy, dans ses collages d'objets figurés et défigurés, qui reproduit sous des formes diverses la violence de genre, nous montre ce qui peut être fait à une femme au Mexique et ce que l'homme est capable de lui faire. Le fait de les photographier, ces collages, lui permet d'exposer, comme chez les cubistes, toutes les vues possibles de l'horreur subie, d'en réaliser un agrandissement afin de redire que ces femmes torturées ne sont pas que des statistiques. Les photographier, ces montages, et donc être en mesure d'en reproduire des copies, c'est également un recours pour insister sur la répétition, la fréquence de ces crimes et dont le pays tout entier est responsable, comme le laisse supposer le photomontage suivant. Donc, alors, tout l'espace de ce photomontage déploie un drapeau de la nation mexicaine, emblème de l'exercice du pouvoir républicain et de la citoyenneté, mais en berne. En son centre ondulant et sur le point d'échoir, s'écoule le symbole de la fondation donc, de Tenochtitlan, qui est le nom nahuatl de Mexico, cette terre nouvelle, considérée comme la plus limpide région, où les dieux au XIVe siècle ordonnèrent aux Aztèques de bâtir leur royaume dès qu'ils apercevraient un aigle dressé sur un opale en train de dévorer un serpent. Mais ici, notre aigle n'est point majestueux. Il s'affaisse, serrant entre ses griffes un serpent perché sur un cactus, dont on ne perçoit ici que les tiges charnues. Le socle de la plante grasse est évincé par le corps d'une poupée mannequin, entortillée intégralement dans du ruban. Seuls les cheveux noirs en bataille de la figurine, un bras dénudé et les deux pieds dont l'un paré d'un soulier à rouge vif à haut talon et le second déchaussé se dégagent de ce drapeau plié comme pour des funérailles et qui s'accouple de fond en comble avec la silhouette de la poupée. Le drapeau recueille en son giron pendant et même avachi une poupée. Poupée signifie dans l'une des acceptions répertoriées par le dictionnaire « personne que l'on traite comme un jouet ». Le jouet choisi, c'est ce que la norme androcentrique et hétérosexuelle assigne aux petites filles dans les découvertes et l'apprentissage ludique de leur corps. Bien se coiffer, soigner sa toilette, prendre soin de soi pour apprendre à s'occuper des autres. Le jouet choisi, du reste, n'est pas massif, mais minuscule. Une métonymie qui identifie la femme à une petite femme de rien du tout. La poupée, c'est aussi l'objet destiné à l'amusement, que l'on met à l'épreuve, que l'on transporte en tout lieu, que l'on désarticule, que l'on balance et que l'on casse. Elle évoque aussi dans l'œuvre de Monroy la femme en tant que matière malléable à satiété que l'on tripote sous toutes les coutures. D'autre part, dans ses diverses définitions et dans sa présence récurrente dans les collages de Monroy, la poupée fait écho aux poupées russes de formes semblables, s'emboîtant les unes dans les autres. Une autre caractérisation qui fond la femme dans un groupe indistinct, puisque les femmes, pour certains hommes, en tant qu'êtres uniques, n'existent pas, elles se ressemblent toutes. Enfin, la poupée, c'est dans son sens figuré la femme aguichante, provocante, qui cherche l'aventure, hein, qui ne demande que cela. Les trois parties à découvert de la figurine insinuent l'inclémence et le sadisme qui se sont déchargés sur ce corps, appréhendé comme un butin acquis, soumis, dilapidé. Une coiffure embrouillée qui aura sans doute été empoignée et traînée, un bras en arrière menotté pour mater la victime, des pieds où l'on ne pend qu'une chaussure pour soutenir que ce n'est pas la femme qui marque le pas, qu'elle ne peut pas aller et venir librement. Les couleurs du drapeau national, qui se divisent héroïquement en trois mesures verticales identiques, donnent dans la photo l'avantage à la rayure blanche, qui depuis la sécularisation du pays, sous la présidence de Benito Juárez au milieu du XIXe siècle, désigne l'unité de la nation mexicaine. Or, chez Monroy, la tate lactée ici fait office de suaire. Le centre de la toile s'étend en effet comme la pièce d'étoffe qui ensevelit le mort et prend fin sur cette poupée ligotée, hein, de toutes parts, qui n'est ici qu'un cadavre. Alors, oui, je vais conclure. Dans son drapeau en train de dévisser, Monroy commente que la violence de genre au Mexique est à la fois une situation structurelle, un phénomène social et culturel enraciné dans les coutumes et les mentalités du pays, tant dans l'espace public que privé, et que cette violence s'était exacerbée dans cette inféconde croisade contre le crime organisé qui a abouti à une séquestration de la vie sociale, à une culture tolérante à la violence et à une protection en faillite de la population. Monroy, comme nous l'avons vu, emprunte des objets du monde réel. Il les colle, il les décolle, il les froisse, il les casse pour remettre en question le monde d'où ils viennent et qu'ils diffusent. Il nourrit ses photomontages de cette violence que pâtissent les femmes mexicaines et en pointe toute la démesure en modérant la parcimonie des composants mais en y cultivant aussi toute la force symbolique. La portée sacrée du drapeau national, allégorie du pays uni, harmonieux, prospère, et d'une poupée mannequin qui marque, hein, l'éternel féminin glamour du jouet des petites filles, déplacée dans la réalité du féminicide au moyen de l'action irrévérencieuse de l'art, qui est là pour interroger et déranger nos représentations normatives, se perd. Elle se perd, cette portée sacrée, pour ne plus parler de l'image dite exemplaire que ces deux objets sont supposés incarner, mais pour revenir à leur sens profane, à l'emploi fallacieux de leur paraître et aux conduites politiques qu'ils véhiculent et qui mettent à mal le corps de la femme. C'est le modèle monolithique qui recouvre chez Monroy, dans sa représentation désacralisée, ses fissures, ses impostures et l'expression de son inhumanité. L'artiste interpelle dans ce drapeau chancelant l'exécutif, le législatif, le judiciaire, lesquels, grâce aux interventions des activistes, des victimes, de leurs familles, des universitaires, des organisations non gouvernementales, ont écrit et voté des lois pour prévenir, gérer, punir et éradiquer la violence de genre. Mais à quoi servent ces lois si elles ne répondent pas quand on les appelle ? Si elles sont privées des ressources humaines et financières pour être appliquées, si elles sont transgressées par ceux qui en sont garants. Pour Monroy, comme pour le photographe de Proceso, la couleur du féminicide et de sa souffrance ne se cherche pas que dans le sang des victimes et la brutalité des victimaires. Elle se trouve dans un état coupable qui fabrique dans un pays difficile pour les femmes et les filles aujourd'hui, dans une société complice à qui l'on brise certes toute volonté de résistance. Coupables et complices dans leur indifférence et leur silence, et il n'y a rien qui rende fou, souligne le poète Olivier Barbaran, comme le calme en plein malheur.
Merci beaucoup. On avait commencé par les mots et on termine par les images. Et je trouve que finalement, je crois que j'ai votre conclusion. Alors, on va laisser la parole et les questions.
Moi, je vais commencer à une première question, juste parce que je vois qu'il n'y a personne. Donc, sur votre communication, merci beaucoup et à tous les deux. Ma question, ce serait sur la réception de cette une. Et la deuxième, c'est sur cette série de photos. J'aimerais bien savoir quel impact ça a pu avoir, quelles ont été les réactions, s'il y a des retours.
Alors, je vais d'abord répondre sur le travail artistique de Gustavo Monroy, que je connais. J'ai connu son œuvre en 2010, puisque ses tableaux ont été exposés, dont celui-ci, je vais vous le montrer. Je crois que je l'ai sur le... Ah non, je l'ai sur ma clé. Bon, c'est pas grave. Au Museo de Arte Moderno. Et je l'ai rencontré après, lorsque j'ai eu un congé pour recherche, en 2014, à Mexico. Eh bien, figurez-vous que ces photomontages n'ont jamais été exposés au Mexique, puisque depuis l'exposition dont a bénéficié Gustavo Monroy en 2010, donc au Museo de Arte Moderno, où il a donc exposé un tableau qui s'appelle La Última Cena, donc la dernière scène, où c'est un jeu de mots avec donc la scène, avec les 12 apôtres et le Christ et le dernier repas. Et ultimar en espagnol, ça veut dire assassiné. Donc il s'est représenté lui-même en tant que Christ avec 12 apôtres qui sont ses amis journalistes et artistes, donc autour d'une table, mais décapité. Donc depuis ce jour-là, il est censuré. Voilà. Et j'ai eu un échange avec lui la semaine dernière. J'ai voulu avoir de ses nouvelles en raison du tremblement de terre à Mexico. Et il me disait que la situation devenait effectivement de plus en plus difficile. Après, concernant la réception du numéro spécial de Proceso, donc c'est une revue hebdomadaire qui paraît le dimanche. Je l'ignore parce que je n'ai pas fait d'études là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ces journalistes sont fortement menacés. Et je vais vous en citer un. C'est Javier Valdés, qui était originaire de l'État de Sinaloa, qui a été assassiné en mai dernier, qui était vraiment un journaliste reconnu. Donc je pense qu'il croyait peut-être même que cette reconnaissance lui servirait de bouclier contre les menaces qu'il avait reçues ces derniers temps, et malgré tout, il a été assassiné. Après, il faut savoir aussi que la population, comme aussi dans nos pays, la diffusion de la presse contestataire est extrêmement difficile. Il y a des garde-fous et j'ai envie de dire que c'est avant tout un public conquis, conscient des problèmes qui lie ce genre de prose.
Bon, alors, après ces politesses, alors deux questions pour chaque intervenant. Pour la première communication, la question que je me posais, c'était si le fait de ne pas aller trop loin dans le réquisitoire, de ne pas évoquer le sexisme, de ne pas vouloir souligner donc à gros traits ces aspects-là, est-ce que ça répondait, si je puis dire, à une mentalité des magistrats de l'époque? Ou est-ce que c'était peut-être au contraire, parce que parfois c'est le cas dans certains procès, une stratégie, si je puis dire, consciente de la part du procureur pour obtenir ce qu'il voulait sans forcément susciter un autre débat et puis provoquer à ce moment-là donc des interrogations qui seraient peut-être contradictoires par rapport à son objectif. Voilà. Et puis je pose peut-être ma deuxième question tout de suite, comme ça ce sera fait et puis le micro pourra circuler. Non, c'était quand même par rapport à la... à la réception du périodique, parce que si on fait la comparaison avec d'autres journaux, je pense en particulier au périodique Détective en France, la première livraison c'est 1928, et on voit par exemple dans ce numéro un certain nombre de photographies de cadavres. Et quand on les regarde d'aujourd'hui avec les regards et la sensibilité contemporaine, on est assez heurté. C'est-à-dire qu'on se dit que ce n'est pas la fiction et c'est assez insoutenable. Alors là, évidemment, ce n'est pas forcément des corps de femmes, c'est des corps de victimes, ça peut être des hommes. Mais comme c'est des photos qui sont donc un peu maladroites en noir et blanc, il n'y a pas non plus donc, l'aspect un petit peu d'esthétisation donc, de la violence. Alors que là, la couverture, elle est à la fois horrible, mais en même temps, donc, au niveau du cadrage ou de la mise en scène, bon, c'est absolument donc, remarquable. Voilà, et donc, vous dites que vous n'avez pas pu mener d'enquête de réception, je comprends, c'est toujours très très difficile, mais on peut se demander à ce moment-là comment donc, le lecteur pouvait recevoir ce type d'image. Parce que le lecteur ne regarde jamais une image toute seule, c'est par rapport à sa propre culture et d'autres images qui viennent rentrer donc, en concordance avec celle-ci. Voilà, ça, c'était.
Alors, pour répondre à la première question, oui, je pense que c'est plutôt plus une stratégie des procureurs alors bon, je pense qu'ils sont par ailleurs sexistes la plupart, hein, on sait que quand même les magistrats à cette époque avaient été conservateurs, mais le fait qu'ils n'exploitent pas la haine des femmes, l'instrumentalisation des femmes, qu'ils n'exploitent pas vraiment dans leur réquisitoire, je pense que c'est plus une stratégie parce qu'ils savent que c'est pas ça qui va porter. Et donc il préfère ce... Et puis il raisonne aussi en juriste, c'est-à-dire que comme ce n'est pas dans le code pénal, on s'appuie d'abord sur les éléments du code pénal, c'est-à-dire est-ce qu'il faut démontrer, il faut d'abord démontrer la préméditation, les choses comme ça. Le reste, ça vient en plus, ça peut faire une belle image, enfin une belle image si on peut dire, une image forte lorsqu'on expose la croix des vaches que le souteneur a mis sur sa prostituée, mais ça ne va pas plus loin.
Alors, concernant la revue Processo, alors il faut surtout pas la mettre sur le même niveau, par exemple, et je pense à des revues qui pourraient correspondre justement à Détective, je pense à Grafico, où là on est vraiment dans l'exhibition morbide, voyeuse du corps ensanglanté. Là, c'est fait par des journalistes hein, qui sont souvent aussi d'un courant qu'on appelle en Amérique, enfin dans les Amériques de langue espagnole, de la crónica del periodismo narrativo. Ils sont issus de toute cette école qui a été mise en place par l'écrivain Gabriel García Márquez, qui est un romancier, mais aussi un très grand journaliste, c'est-à-dire une enquête de terrain. Toutes ces photos ont été auparavant publiées donc, dans le numéro hebdomadaire avec des articles. Simplement, à la fin du sexennat de Felipe Calderón, où il y a eu toute une propagande de la part du gouvernement pour finalement falsifier les chiffres du bilan de la politique sécuritaire du Mexique, eh bien, les journalistes ont dit « ben voilà, nous on va vous mettre des preuves ». Et on va vous montrer l'état du pays, aussi douloureux que cela puisse vous paraître. Donc voilà, ça fait partie de cette école. Je pense qu'il faut prendre cette revue vraiment presque comme un acte de désespoir, et aussi comme une portée politique. Voilà. Enfin, c'est l'interprétation que j'en ai.
Est-ce qu'il y a encore des questions ?
C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque que je me suis faite, mais en vous écoutant néanmoins, mais qui s'adresse à toute la journée et puis aussi bien à vous qu'aux organisateurs, c'est-à-dire nous aussi. C'est que finalement, je me pose une question. Depuis le début de la journée, en fait, nous faisons comme si la violence contre les femmes, le féminicide, le meurtre des femmes, finalement, ne concernait et ne s'adressait qu'aux femmes. Je crois pas qu'on ait, en tout cas, traité, même si ça a été évoqué. On n'a pas traité le fait que, à ce niveau justement sociétal et communautaire qui était au départ néanmoins l'objet de la journée, le meurtre de femmes peut s'adresser à d'autres groupes humains que des femmes. Ça peut être à l'ensemble d'une société ou d'une communauté. Ça peut être adressé à la communauté des hommes. Et en fait, on n'a pas du tout... voilà, ça m'est venu comme ça en termes de remarques. Donc si vous avez des réponses ou des suggestions dans ce sens-là... On a parlé beaucoup du refus du féminin, on a parlé de la haine des femmes, etc. Mais on n'a pas parlé des cas de féminicide. Par exemple, on a évoqué le crime d'honneur qui peut rentrer dans le cadre. On n'a pas parlé, mais on ne l'a pas traité dans le sens de cette dimension que les crimes d'honneur s'adressent à la communauté, voire à la communauté des hommes, tout autant, voire plus qu'aux femmes, et ne suppose pas une haine ou un refus du féminin en tant que tel. Voilà.
Quelqu'un pour répondre à Ludovic Gosseau.
Merci. Donc, ce ne serait pas pour répondre, mais pour poser d'autres questions, peut-être. C'est possible, sur la dernière présentation. Alors, une qui serait stylistique et une plus sur le fond. La première, ce serait que votre présentation est... la prose est très bien écrite, si j'ai envie de dire. Et puis on a des clichés qui, malgré l'horreur qui est représentée, sont relativement beaux. En tout cas, vous mettez en avant tout le symbolisme et la représentation qu'il y a derrière. Et ma question, ce serait, est-ce que de les présenter de cette manière-là, la personne présente devant avait parlé d'esthétisme aussi, et d'accentuer sur l'esthétisme, est-ce qu'on ne contribuerait pas à anesthésier un petit peu l'horreur qu'il y a derrière ce type de cliché? Donc ça serait la première question sur la stylistique de la manière de présenter, on va dire, des sujets comme ça aussi sombres. Et le deuxième sur le fond, c'est que sur cette première photographie, j'ai pas l'impression que vous ayez parlé du crime derrière et du criminel, de tout ce qui peut être un peu plus policier qu'on avait à la présentation précédente. Et je voulais juste savoir, par curiosité, s'il y avait des choses, que ce soit dans ce journal ou de ce que vous avez fait d'après vos recherches, qui ont éclairci sur la raison de pourquoi tous ces crimes ont été commis, comment ça s'est passé, et ainsi de suite.
Bien, alors sur l'esthétisme, là, je vais avoir un discours depuis mon domaine de recherche, la littérature. Vous allez me dire qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que l'art visuel peut dire de plus qu'une étude, on va dire, sociologique, anthropologique. Alors, on n'a pas du tout cette prétention, simplement, oui, voilà, c'est de remettre de l'émotion, de la sensibilité. Je pense que c'est important. Dans des moments où on a une disparition de la figure humaine, où l'humain n'est plus au centre de nos préoccupations, eh bien, de revenir à ses fondamentaux. Donc, moi, je sais que souvent, vous savez, on me reproche ce style. D'ailleurs, le jour de la soutenance de ma thèse, il y a très longtemps, on m'avait recommandé de lire le code pénal et le code civil de façon à épurer mon texte. Et moi, je me refuse d'adopter un style clinique quand j'aborde des sujets aussi douloureux. Concernant votre deuxième question, alors sur la photo qui a été prise, je n'en sais rien, même le photographe, il ne sait pas comment cette jeune fille a été assassinée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne l'a pas prise par hasard. Enfin, si, je veux dire, il y a le hasard de prendre la photo, mais si elle a été publiée, c'est parce qu'elle répondait à un contexte bien particulier. C'est-à-dire que, c'est à Ciudad Juárez, où, notamment dans les années 90, vous avez eu donc des disparitions systémiques de jeunes filles. C'était des crimes assez codifiés qui continuent, même si les profils se sont de plus en plus diversifiés, malheureusement, qui travaillaient en général dans ce qu'on appelait les maquiladoras, c'est-à-dire des entreprises de sous-traitance qui se sont installées à la frontière, notamment parce qu'elles étaient exonérées d'impôts. Elles pouvaient embaucher sans respecter le code du travail une main-d'œuvre bon marché.
et ils avaient un vivier, en particulier de femmes qui venaient soit d'autres États du Mexique, puisque le Mexique est une république fédérale comme les États-Unis, de femmes qui n'ont pas pu franchir la frontière ou alors qui étaient venues à la frontière chercher du travail, puisque le Mexique était dans une crise économique, notamment dans les États du Sud, assez prégnante. Il faut savoir que généralement, ces femmes vivaient dans la périphérie et qu'elles n'étaient pas enregistrées sur le registre civil. Donc il y avait un vivier de femmes dans une période où il y avait une grande confrontation entre des cartels de la drogue. Donc alors là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises, notamment par une enquête qui est la plus sérieuse et la plus étayée, avec une prose d'ailleurs très littéraire. Il était d'ailleurs romancier, il est malheureusement décédé en avril dernier, et avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Sergio González Rodríguez, qui a publié en 2002 Huesos en el desierto, des os dans le désert, et qui est une enquête pluridisciplinaire sur les crimes de femmes donc dans cette ville frontalière. Le fait que le journaliste se soit comme ça appesanti sur la poubelle, c'est parce que ces corps de femmes, justement, où est-ce qu'on les retrouvait ? On les retrouvait dans des décharges publiques, on les retrouvait également dans des terrains vagues, dans le désert, sur des bords d'autoroutes, dans des rivières à sec, c'est-à-dire finalement dans des lieux qui n'avaient pas d'identité. Voilà, donc il y a toute une force symbolique. Et alors après, les profils des agresseurs, alors là, ils sont multiples, il n'y a pas qu'un profil, il n'y a pas qu'une vérité, il y a des tas de vérités. Évidemment, la thèse du serial killer, elle a été évoquée, il y en a sans doute. On a considéré aussi que la femme pouvait servir d'objet d'orgie au sein des cartels de la drogue, comme pour tester la fidélité des troupes au cartel, des messages aussi entre les différents quartiers pour semer, c'est ce que vous finalement vous sous-entendiez, entre les différents territoires. Enfin voilà, ce sont des tas de thèses qui ont été ensuite redéveloppées par une journaliste états-unienne qui a des origines mexicaines, qui vit à El Paso, qui travaille pour El Paso Times, qui s'appelle Diana Washington Valdez, ça s'appelle, son titre, il est, enfin, Huesos en el desierto, déjà, c'est, bon, j'ai envie de dire, sémantiquement, bon, c'est fort, et elle a appelé des eaux dans le désert, donc, et elle, son livre s'appelle Cosecha de Mujeres, cueillette, récolte de femmes.
Merci beaucoup de vos deux interventions. Alors, si vous voulez bien, on va conclure cette journée. C'est Laurie Loffer et Béatrice Santos qui vont conclure à deux voix. Je ne sais pas comment vous êtes organisés. Vous ne savez pas, ben on va voir.
Je me joins bien sûr aux remerciements pour nous, en fait.
Oui.
Les organisatrices et les organisateurs. Merci Ludovic. Non, j'ai trouvé. Alors c'est très compliqué de tirer un fil de conclusion, mais en fait, la phrase de Lydie en disant on a commencé par les mots pour terminer sur l'image, je trouve que c'est un fil que je trouve assez intéressant. Je me suis demandé en vous écoutant, Cathy, si précisément le fait que au Mexique, au Brésil, puisqu'on est parti de cette réalité-là dans le début de la journée, le terme de féminicide ne fait pas tant débat que ça. Le terme au Mexique, et, enfin en Amérique du Sud, je parle sous le contrôle de Béatrice Santos, mais bon, mais c'est déjà une question, cette affaire-là. Et si le recours à l'image, alors c'est, ça pose des tas de questions sur la représentation, sur faut-il représenter l'irreprésentable, enfin il y a eu des tas de choses autour de ces questions-là, mais je ne vais pas y revenir. Mais du coup, on est parti dans la journée du discours pour arriver jusqu'aux questions de représentation. Bon. Et en fait, ce matin, quand je prenais des notes sur ce que j'écoutais, je me disais que nommer n'a pas les mêmes effets, nommer une réalité, n'a pas les mêmes effets selon que l'on est juriste, historien, sémioticien, je ne sais pas comment je pourrais dire ce que vous êtes, en tout cas une analyste des images ou des représentations, selon que l'on est psychanalyste, anthropologue, selon que l'on est militant. Ce qui ne veut pas dire que tous ces découpages s'excluent. Il peut y avoir un feuilletage, peut-être d'ailleurs que c'est à ça que l'on doit prétendre, hein, ce feuilletage justement pour inclure ces nominations, mais la nomination, évidemment, pose un problème de qui tient le discours qu'il tient, et dans quel objectif, dans quelle visée, et pour quelle stratégie politique, de pouvoir, d'émotion, de produire de l'affect, etc. Autrement dit, ce sont des propositions, hein, puisque j'essaye de faire une espèce de collation de tout ce que j'ai pu entendre. Autrement dit, quand on écoutait votre exposé, Cathy, reconnaître le terme de féminicide dans des sociétés dont vous dites, à juste titre, hein, qu'elles sont patriarcales, etc., c'est reconnaître ce terme-là dans nos sociétés européennes, par exemple, hein, je reviendrai sur le débat sur la question juridique tout à l'heure, ce serait donc reconnaître une société patriarcale, inégalitaire, avec des normes de genre qui produisent de l'inégalité, dans des contextes, en tout cas en France, de républicanisme universaliste, et c'est pas rien. C'est-à-dire, l'une des difficultés de reconnaître ce terme, ce signifiant même, dans des contextes où, justement, où il y a cette espèce de républicanisme universaliste, on en a parlé un petit peu ce matin, hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement produire des effets de nomination sur une réalité qui est, ou un réel, on dit en clinique, hein, qui est des crimes de femmes en tant que. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir s'interroger sur ce que veut dire cet énoncé en tant que. Voilà. C'est pas simplement de revenir à une réalité, il y a eu des exposés très passionnants, hein, sur les pratiques. Alors, où on va tenter de trouver des raisons économiques, psychopathologiques, passionnelles, etc., hein, où il y a des mobiles. Bon, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un crime sans mobile autre que en tant que femme ? Bon. Donc ça, c'était la première question que je me posais. Et du coup... cette proposition qui consiste à dire que, effectivement, on ne peut pas réduire le féminicide à sa seule catégorie juridique. On a vu à quel point c'était très compliqué, puisque, effectivement, on a peut-être plus à gagner à garder l'idée des circonstances aggravantes au plan juridique. Voilà, dans cette collection des circonstances aggravantes, bon, peut-être que, voilà. Et on voit bien la difficulté, justement, à circonscrire, à définir. Alors, d'une certaine façon, si on ne peut pas aller de ce côté-là, hein, du côté de cette nomination juridique, la loi juridique n'est pas le réel. Ce n'est pas la réalité. Bon. La réalité, aujourd'hui, voilà, on l'a entendu parler, vous nous en avez montré des représentations très, très fortes, pour le dire comme ça, un peu platement. Alors, est-ce que cette nomination ne relève pas d'un acte militant et stratégique ? C'est une autre possibilité. Ce n'est pas voilà, c'est une question. Est-ce que ça ne relèverait pas de cet acte-là, militant et stratégique ? Ça veut dire, et je reprends l'expression que Myriam Orellana, voilà, bon, je sais pas, Myriam, si ça vous va, a mis en perspective ce matin sur la dimension polémique, nécessairement la dimension polémique. C'est-à-dire que il y a peut-être dans l'utilisation de ce terme la nécessité d'un activisme du terme lui-même, pour le dire comme ça. Bon. Et juste, là encore, une dernière proposition. Enfin, non, pas une dernière proposition, je ne sais pas, parce que je notais, voilà, la reconnaissance symbolique, ça ne se réduit pas à la reconnaissance sociale, qui ne se réduit pas à la reconnaissance juridique, qui ne se réduit pas à la reconnaissance subjective. Il faut pouvoir reconnaître aussi qu'il y a des... etc. Et donc, je me disais qu'il y a une proposition que fait Spivak, Gayatri Spivak, notamment dans un ouvrage qui s'appelle « Les subalternes peuvent-elles... ont-elles la parole, peuvent-elles parler ?» hein. Et notamment, Spivak fait une proposition politique. Quand elle parle de... ce qui a d'ailleurs fait beaucoup de débats dans les mouvements féministes, lorsqu'elle parle d'essentialisme stratégique. Parce qu'évidemment, la notion de féminicide va aussi poser d'autres questions, notamment de renaturaliser, hein, différentialiser, c'est-à-dire donc de considérer qu'il y a une nature ou une essence femme différemment d'une nature ou d'une essence. C'est tout le problème, voilà. Et donc, Spivak dit peut-être que dans certaines situations, il y a la nécessité d'un essentialisme stratégique. Et elle définit l'essentialisme stratégique de la façon suivante. Elle dit, c'est la fixation provisoire d'une essence dont on sait qu'elle est artificielle, et que cette fixation peut dans certains cas être stratégiquement utile. Dans cette fixation, hein, peut être dans certains cas stratégiquement utile. Donc, peut-être que pour réfléchir, hein, sur cette question-là, en évitant de s'embourber un peu dans voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on dit féminicide, est-ce qu'on reproduit une catégorie, est-ce qu'on naturalise, etc. Parce que c'est ça le risque. Et du coup, bon, de buter. En tout cas, le risque ici, enfin, ici, dans les débats où justement la loi est plutôt frileuse à dire, etc., parce qu'il faudrait réintroduire infanticide, parricide, etc. C'est pas rien. Hein. Bon, donc, voilà, c'était quelques propositions pour en fait remettre au cœur de cette affaire-là la nomination comme un acte politique. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, nommer, c'est aussi. Nommer, c'est-à-dire voilà, produire du signifiant, ça a l'air de rien, ça a l'air très, très évident de dire ça, hein. C'est aussi un acte politique. Ça n'est pas tout, c'est-à-dire ça ne suffit pas, puisque quand on a, quand la parole ne suffit pas à créer des déplacements subjectifs, ben on va avoir des dispositifs imageants. Voilà ce que vous avez montré, par exemple. Alors, c'est pas consécutif. Hein, c'est pas parce que ça ne sert pas qu'après, on va produire de l'image, évidemment. Mais ce n'est pas rien d'avoir recours à cet affect, hein, qui produit de l'angoisse, de l'émotion, qui, ces dispositifs imageants, là, je m'inspire beaucoup de ce que Marie-Josée Monzin travaille autour des questions de l'image, en termes de dispositifs politiques aussi. Hein, ces images doivent, là encore, produire de la parole. Donc, nommer, c'est aussi un acte politique, et puis il faut pouvoir évidemment articuler ces choses-là, des stratégies, quoi. Voilà. En fait, c'est ça la question. Quelle stratégie on met en place pour produire une reconnaissance, qu'elle aille de la reconnaissance symbolique à la reconnaissance sociale, peut-être pour terminer par une reconnaissance juridique. On sait très bien que le législateur entérine des reconnaissances. On le sait après. Voilà, il vient quand les batailles sont terminées, quoi. Hein? Donc peut-être que l'entrée, elle est voilà, ne pas hésiter à militer, quitte à se heurter à des tas de choses, tant mieux. Hein? Quand on milite, on se heurte, évidemment. À militer à une certaine reconnaissance, y compris contradictoire. Voilà. Bon, c'était ça, les quelques propositions sur lesquelles on pourra évidemment revenir le 2 décembre. Je laisse Béatrice, mais ce sera à Paris.
Donc je termine sur cette invitation poursuivre le débat. J'aime beaucoup cette idée d'une reconnaissance contradictoire. Il me semble qu'en effet, différemment de la première journée qu'on a pu faire en début de l'année, ici la question du mot féminicide, différence ou indifférence entre fémicide et féminicide est apparue de manière plus présente, alors que en début de l'année, on en parlait à midi. Peut-être que le fait que la première journée de ce colloque ait commencé à Paris, à l'Assemblée nationale, sur une expérience personnelle de quelqu'un qui utilisait ces mots pour faire le récit des violences que dans sa famille avait eu lieu. C'est Minou, tu aurais dit son nom?
Mirabal.
La fille d'une des sœurs Mirabal qui sont à l'origine de l'utilisation de ces termes et qui, autour de quoi la journée du 25 novembre qui a été citée comme la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes a été nommée, c'est l'assassinat de ses sœurs. Quelque part, cette incorporation et cette expérience vécue de la violence semblait en tout cas amener les débats dans d'autres directions que ce qu'on a pu vivre aujourd'hui, ce qui est, je trouve, intéressant aussi. Nos difficultés, comme disait Laurie, le fait qu'il y ait un flottement et une hésitation dans la possibilité de nommer quoi ça sert, ces signifiants féminicide ou fémicide, est intéressant. Je pense que ça résonne aussi avec la dernière question de la journée, qui était celle de Ludovic, finalement, à quelque part, à qui ça s'adresse, ces mots. Et qu'est-ce qu'on pourrait en faire? C'est que dans mes recherches en théorie psychanalytique, enfin, théorie et pratique autour de cette question, moi je prends cet objet féminicide dans ce sens-là, d'indiquer qu'il y a un vécu de la violence qui dépasse les cadres d'une vie subjectif propre à une seule personne et qu'il y a des éléments qui sont présents dans notre société qui rendent la distribution de la vulnérabilité d'une vie très différente. C'est-à-dire qu'il y a des sujets pour qui certains dangers sont présents et qui ne sont pas les mêmes qui pour d'autres sujets et de quelle manière les analystes prennent ça en compte, en acte, quand ils sont à l'écoute de quelqu'un. Pour moi, la discussion autour de cette idée d'un continuum des violences faites aux femmes, comme présente dans la définition de Marcel Lagarde, plutôt de Diane Russell dans la première définition dans les années 70, un continuum des violences qui en fait concerne à la fois les faits, on pourrait dire aujourd'hui, même si elle ne parlait pas directement de ça, les femmes qui ont tué et ont jeté à la poubelle à Ciudad Juárez, mais les faits qu'on puisse choisir, préférer de garder un enfant qui est du sexe masculin et qu'on se fasse aborter d'une petite fille. Ça, ce sont des idées par rapport, quelque part, à la légitimité de la vie d'un sujet. Quelle vie est valable, pour penser un peu comme dans les termes de Judith Butler. Il y a une différence dans la valeur même de la vie et ça c'est une donnée que les analystes ont parfois un peu de mal à prendre en compte parce que nous sommes intéressés à justement ce que chacun vienne parler de son expérience subjective et qu'il soit mis soi-même au centre de la scène et parfois on a tendance à peut-être parce qu'on ne pourrait pas faire autrement, à laisser. On a une certaine difficulté à écouter ces genres d'expériences structurelles des violences. Pour moi, l'intérêt de quelque part savoir qu'il y a un type de violence qui se fait contre un groupe de sujets, les femmes, parce qu'elles sont des femmes, me permet de placer cette question des expériences de sujets qui arrivent et qui peuvent, et cela me sert aussi pour penser les racismes, l'homophobie, la transphobie dans la clinique. Comment il y a comme il y a une question particulière liée à l'écoute et à ces expériences. je pense que dans la troisième et dernière journée de ces colloques, qui aura lieu donc les 2 décembre à Paris Diderot, vous êtes toutes invitées, cette question de la dimension intime, peut-être à l'altérité de sujet, ses difficultés propres à ses travaux d'analyste sera présente. Et donc, je vous invite à venir et je vous remercie beaucoup.
Je voudrais juste rajouter une toute petite chose, puisqu'on a la présidente me l'accorde. Voilà. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Béatrice, puisque donc nous travaillons plutôt dans le domaine de la psychopathologie, de la psychanalyse, pour le dire comme ça. Et une autre proposition que m'a inspirée cette journée, Freud fait de l'énoncé « on bat un enfant » la structure formelle comme énoncé du fantasme d'être battu ou de battre, hein, pour le dire comme ça. Bon. Mais il fait vraiment de cet énoncé, c'est-à-dire avec le fait qu'on puisse naviguer dans cet énoncé, bien sûr, changer de place à l'intérieur de ce qu'il va appeler ce paradigme du fantasme. Hein, donc il fait de cet énoncé une valeur paradigmatique pour réfléchir sur cette notion-là. Par analogie, je trouve qu'on pourrait peut-être, on verra, hein, peut-être que c'est une proposition qui n'aura pas de suite, mais qu'on pourrait peut-être réfléchir sur est-ce qu'il est possible de produire et de travailler sur l'énoncé « on tue une femme ». On tue une femme avec précisément, pour lui donner cette valeur paradigmatique qui déplace le curseur vers la femme, plutôt que le « on », qui en fait, et ça rejoint peut-être ce que disait Ludovic tout à l'heure, hein, c'est-à-dire une valeur peut-être plus universelle, pour le dire comme ça, ou un neutre universel, je ne sais pas très bien comment dire, un indirect, voilà. Hein, on tue une femme comme énoncé paradigmatique de ce que peut produire cette violence faite à une femme en tant que, hein, parce que c'était ça la question, sans nécessairement devoir justifier. Je trouvais très intéressant les interventions des historiens où il fallait à chaque fois démontrer la haine des femmes dans les circonstances du crime, dans l'acharnement au crime, c'était intéressant, hein, la nécessité de prouver pourquoi il y avait, pourquoi on pouvait dire que c'était féminicide, parce qu'il y avait de l'acharnement, du découpage en tous les morceaux, enfin des trucs épouvantables évidemment. À ce moment-là uniquement, on pouvait commencer à considérer que, c'est qu'il y avait quand même peut-être la haine d'une femme, quoi. Alors que les femmes, elles empoisonnent juste. Hein. Enfin, elles empoisonnent, je veux dire, elles sont des empoisonneuses. Non, mais elles empoisonnent la vie des autres, peut-être, mais enfin, en tout cas. Bon, bref. Donc, voilà. On tue une femme, c'est cette proposition qui consiste à dire sans autre justification qu'en tant que. Voilà, bon, c'était ça le principe. Merci encore.
Merci à tous et merci aux étudiants d'être venus, rester et d'être un bon public. Merci à vous. Merci à tous les intervenants qui sont venus et à l'Espace Main des France de nous avoir accueillis comme toujours.
Justement, je tenais à vous remercier tous et toutes d'avoir été présents, les intervenants, les étudiants, étudiantes. Et je voulais juste vous signaler que ici nous avons accueilli Minou Tabarès Mirabal à l'Espace Mondes France. Et après, effectivement, la première journée du colloque sur le féminicide, il se trouve que sur le site de l'Espace Mondes France, vous pouvez retrouver l'enregistrement de sa communication. Et je vous conseille d'aller l'écouter parce que c'était très, très bien, c'était très fort. L'Espace Mondes France édite aussi une revue qui s'appelle L'Actualité Nouvelle-Aquitaine. Et sur le site, il y a un article sur le 25 novembre qui revient justement sur les circonstances. Donc vous avez à la fois cette possibilité de réécouter et aussi de lire. Voilà. Et dernier élément, le 15, je rappelle juste par rapport à Lydie, l'a déjà dit ce matin, mais je le rappelle ce soir, que nous avons le 15 novembre l'avocate Isabelle Steyer qui va parler des causes des femmes et des enfants. Et on est sur des thématiques qui sont proches. Merci. Et je vous remercie.
À 18h, le 15 novembre à 18h.
Voilà.
Merci Loïse de votre accueil.